Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Alors dans cette réu, j'ai le choix entre plusieurs sujets que j'aimerais qu'on aborde, Judith et Mathieu. J'aimerais bien peut-être qu'on parle du nouveau film de Ariel Dombal. Peut-être un sujet intéressant, parce qu'elle a fait un film qu'elle a écrit, interprété, dans lequel elle joue une sorte de Don Juan féminin. Deuxième possibilité, c'est parler des remasters de jeux Tomb Raider qui sont en 2024, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et sinon, on peut parler du Conjuringverse, parce que la Nonne 2 vient de sortir. Donc de quoi vous voulez qu'on parle, Mathieu ?
Franchement, par élimination, mais vraiment élimination difficile. 2-1 pour pas avoir à parler de Ariel Dombal. 2-2 pour pas que tu parles pendant 5 heures de Tomb Raider encore. On devrait peut-être faire le Conjuringverse, même si c'est clairement pas le sujet le plus passionnant non plus du moment, mais bon.
Oh, mais toi Geoffrey, ça te dérange pas qu'on parle du Conjuringverse, t'aimes bien?
Oui, j'adore, mais je pense surtout que c'est toi Judith qui veut qu'on en parle. Non
oui, moi je suis encore très cliente de cette saga. Enfin là, je suis un petit peu arrivée au bout, mais globalement, je suis vraiment vendue à ce genre de films d'horreur, de maisons hantées, de portes qui claquent. Voilà, j'adore ça, donc oui, je suis sûrement la plus clémente envers cette saga.
Alors il faut quand même qu'on se rappelle qu'on a tous les trois été voir un vendredi soir en avant-première sur notre temps libre, la Nonne 2, tous les trois. Et même toi, Judith, qui avait un peu d'attente, t'as trouvé que c'était nul.
Ah oui, atroce. Là, j'ai plus aucune tolérance, là.
Okay. on a rejoint le même niveau, ça y est. Et pourquoi c'était si nul, la Nonne 2? Qu'est-ce que tu trouves de pire dans celui-là, franchement?
En fait, c'est beaucoup une question de pauvreté en termes de mise en scène et de gâchis de la peur au montage, parce que tout est fait en fait pour complètement détruire tous les rythmes et toutes les installations d'atmosphère qui peuvent amener de l'attention et qui peuvent amener de la peur. Donc du coup, ça ne fait jamais peur. Et au-delà de ça, il y a aussi une grande pauvreté du décor, l'écriture des personnages, j'en parle même pas. Donc là, non seulement on est vraiment que sur de la redite. Au bout d'un moment, il y a plus aucune substance, plus aucune saveur, et on en a juste marre, quoi.
Mais je sais pas si elle parle de la ou Annabelle 3 ou
Non, c'est bien la Nonne 2.
Enfin, vous voyez que la Nonne 2 encapsule quand même tous ces problèmes qui sont là depuis très très longtemps, et là c'est tellement fait avec les pieds que t'arrêtes d'y croire en fait. T'as plus ce truc du bon, peut-être que cette fois ça va être rigolo, et en fait non, là c'est terrible.
Et c'est quoi pour vous les meilleurs ou moins mauvais films du Conjuringverse qu'on voit qu'on n'est pas d'accord encore une fois?
Bah, moi je pense que, alors même s'il y en a plusieurs que j'aime vraiment bien, je pense que le premier Conjuring reste quand même le meilleur.
Ok, et toi Mathieu?
Bon, pareil, j'ai revu il y a pas longtemps du coup le premier Conjuring. Je m'attendais, parce que je l'ai pas revu en entier depuis la salle, je m'attendais à déchanter, et en fait je continue à trouver ça très malin, très amusant. Ça fait un peu peur des fois, ouais. Enfin, ça m'a bien fait peur à l'époque et ça m'a refait encore un peu peur en le revoyant. Et je trouve que le 2 reste sympa aussi, et tous les autres sont des kilomètres en dessous. Désolé, oui, j'ai revu Annabelle 2 et c'est un peu mieux, mais ça reste quand même. Enfin, en vrai, s'il était sorti tout seul. Ce serait quand même le pas de panier du cinéma d'épouvante mainstream.
Ah, c'est plus malin que ça aussi, il y a plus de choses, mais bon.
Ouais, c'est quoi le pire? Est-ce qu'on est tous d'accord sur le pire? On peut pas citer la Nonne 2 puisqu'on est tous d'accord, mais le pire avant la Nonne 2.
Alors, la malédiction de la Dame Blanche, du coup.
C'est bon.
Si ça compte, du coup, dans le Conjuringverse, on va dire que oui.
Ouais, je crois que techniquement,
c'est un peu... Faudra en reparler, mais il y a débat.
Ouais, bon, en tout cas, ils l'ont vendu comme ça, donc...
Oui. Hein.
Et l'autre pire, alors, si jamais on met la Dame Blanche à côté, entre...
Pour moi, c'est Annabelle, hein. Le premier.
Le premier.
Oh, ah
ouais,
non.
Ouais. C'est vraiment très très mauvais.
Je trouve que Annabelle 3 est pire que le premier.
au moins ils ont l'idée initiale, hein. Annabelle 1, dès la seconde que ça commence, tu sais que c'est du cash grab et ça va faire que s'empirer. Mmh. C'est horrible, je trouve.
Alors moi, je trouve que le Annabelle 3 est le moins bon de la trilogie, mais je le trouve quand même pas mal. Donc, non, à part la malédiction de la Dame Blanche, je dirais que l'autre pire, c'est Conjuring 3 plutôt. Mais bon.
Ah ouais, moi je déteste pas Conjuring 3. En le revoyant, je me suis dit, en fait, je trouve qu'au moins il essaie un peu de varier, parce que Conjuring 1 et 2, c'est vraiment exactement la même formule. Donc je trouve qu'on se fout un peu de ma gueule, sachant que déjà dans le premier, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Et dans le 3, je trouve que le fait d'ouvrir un peu sur le côté enquête et d'avoir une menace qui est un peu une humaine du côté satanisme, je trouve ça un peu plus amusant que juste une putain de maison hantée avec encore des fantômes dans le placard, dans le sous-sol, et une gamine hantée qui fait en bougeant un fauteuil, tu vois. Bon, au bout de trois fois, moi je sature.
Mmh. J'avoue que j'ai vraiment pas aimé Conjuring 3, mais je lui reconnais des qualités qu'il n'y a pas dans ceux où il n'y a rien, comme Annabelle ou La Nonne 2. C'est-à-dire que par exemple, je trouve que la photo est pas dégueulasse, il y a quelques scènes qui fonctionnent, notamment l'intro. Et bon, l'idée de, un peu comme Annabelle 3, l'idée de base est bien, mais bon, on va en reparler. Bah, c'est aussi le problème.
Après, Conjuring 3, là, moi, il me pose problème, au-delà de sa qualité, c'est aussi sur un problème moral dont on aura l'occasion de reparler, mais concernant les Warren, je trouve que c'est là où ils commencent à faire des sorties de route totales sur ce couple, on développera le sujet, mais qui ont quand même, a priori, été des énormes imposteurs, et le film légitime beaucoup.
Et bien pire que ça.
Dieu va vous punir pour dire ça, vous allez compte.
Et là, ça légitime complètement leur thèse surnaturelle et leur thèse qui est à leur gloire, alors que dans l'histoire, il y a quand même un mec qui s'est fait assassiner, quoi. Ouais. Et le type, le héros, a quand même été... Enfin, l'un des héros du film a été condamné pour son meurtre. Et là, c'est vraiment en mode, non, mais il était zéro responsable, c'était le diable. C'est un peu chaud quand même.
Alors, pourquoi on aime autant, pourquoi on parle autant du Conjuring, quoi? C'est parce qu'il n'y a rien, en fait, à regarder en face en termes d'horreur? Est-ce que finalement, c'est un des seuls trucs que le public a à consommer quand il veut un peu des frissons régulièrement?
Je pense que c'est une question de monopole. Ils ont vraiment réussi à imposer un monopole avec ce truc. Ça a cartonné. Franchement, il y a une période... J'ai l'impression que vraiment, en parlant uniquement d'épouvante mainstream, donc celle vraiment qui fait les multiplex, etc., il n'y avait que deux types de films à l'époque. Enfin, au début, tu avais les films du Conjuringverse et les Blumhouse. Franchement, à part ça, en venant des États-Unis et qui vraiment fait une genre d'épidémie dans les salles, bah, c'était hyper rare, quoi. Du coup, je pense que pour une bonne partie du public, et notamment pour un public jeune, qui est quand même le public que vise ce genre de film, bah, c'est devenu une sorte de rendez-vous, comme les films Marvel, qui est d'ailleurs une formule qui cherche à émuler...
Ouais, donc
criarde.
Les films de Blumhouse, c'est les Paranormal Activity, les American Nightmare, Sinister, c'est eux? Non, c'est pas eux.
Si, ah, je crois.
Si. Oui, je crois.
Il me semble, oui.
Doute. Ouais. Mm. Parce que si, je vais essayer de retracer quand même pour qu'on sache de quoi on parle. Profonde inspiration. 2013, le premier Conjuring. 2014, Annabelle. 2016, petite pause, hein, Conjuring 2. 2017, Annabelle 2. 2018, La Nonne. 2019, La Malédiction de la Dame Blanche. 2019, la même année, Annabelle 3, La Maison du Mal. Remarquez l'originalité des titres. 2021, Conjuring 3, Sous l'Emprise du Diable. La Nonne 2, en 2023, La Malédiction de Sainte-Lucie. Les titres sont aussi pourris que les films au fur et à mesure, quand même.
Bah, on a troqué le diable contre Sainte-Lucie, déjà.
Les titres français sont pires que les titres anglais.
C'est vrai.
En plus, La Nonne 2 était un peu retitrée peu de temps avant la sortie avec La Malédiction de Sainte-Lucie qui n'était pas du tout dans la promo avant. Ils se sont dit, au cas où les gens voudraient un titre à rallonge.
La Nonne 2, moi, ça m'a fait rire parce que dans le métro parisien, il y a des affiches. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'un de leurs arguments marketing, clairement un truc qu'ils ont mis sur leur petit PowerPoint quand ils ont fait leur réunion marketing, c'est ça se passe dans le sud de la France, donc les Français vont aimer. Parce que sur l'affiche dans le métro, il y a écrit un truc genre les origines de la saga. Enfin, ils disent le numéro, littéralement l'endroit où se passe l'histoire. Et c'est. Les origines terrifiantes de la saga dans le sud de la France, comme si c'était vraiment un argument incroyable.
C'est
ça. Je veux dire,
après, Mathieu,
que ça change.
Est-ce que c'est une source fiable, Mathieu, parce qu'il s'en est pris plein dans la gueule pour avoir fait une blague sur le pastis dans sa critique, donc est-ce que c'est t'es vrai. Pas anti-sud en fait, parce que tu viens du nord, de l'extrême nord, comme dirait Déborah.
c'est vrai, mais je suis régulièrement en contact avec des gens du sud et il faut avouer que cette petite blague était juste pour les énerver, mais j'énervais
ça marchait, non,
une région entière.
J'adore comme on allume des incendies et des endroits insoupçonnés par là.
Donc, mes excuses, j'aime pas le pastis, mais je respecte ceux qui en boivent.
Mais d'ailleurs, les titres des films de la saga, les titres français en tout cas, ressemblent un peu aux titres d'articles Discover qu'on fait nous sur le site. La Malédiction de Sainte-Lucie, absolument pas de malédiction, mais ok.
Ah, mais on en reparlait avant de tourner la vidéo, ça me fait penser à, bon, c'est mini hors sujet, mais ce truc de La Malédiction 2, ça me fait toujours penser au remake de Chucky, dont en VO ils avaient repris le titre original du premier Chucky, donc Child's Play. Ouais. Et en français, ils avaient appelé ça Child's Play, la poupée du mal. alors que justement le seul putain d'intérêt de ce remake, c'est que c'est pas du surnaturel. Du coup, c'est vraiment, tu sens qu'il faut qu'il soit écrit du mal quelque part,
oui,
malédiction,
ça.
S'il y a pas mal dans le titre, Google va pas aimer.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est, je me disais à quel point cette saga est vraiment spéciale, et en termes de business, en termes de films, est-ce qu'il y en a eu plus si tu compares à, je sais pas, à Saw, à Scream, à Halloween, qui sont un peu increvables. Et en fait, Conjuring, t'as eu 9 films en 10 ans, ce qui est plus que Saw, où il y a eu 10 films en 20 ans. Donc en fait, c'est vraiment une usine, ce truc. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça, qui a fait autant de films, je vais dire autant de mal, mais autant de films en tout cas. Donc il y a quand même un argument un peu unique. C'est un peu comme quand on parle du MCU, où on se dit, peu importe si on aime ou pas, ils ont quand même fait un truc un peu spécial en termes de, bah, on vous donne une narration et vous en voulez, et ça marche de manière franchement stable, parce que la None 2 cartonne.
Mmh. Oui, mais en même temps, tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur pourquoi est-ce que le public continue d'y aller, pourquoi est-ce que le public a envie de ça. Moi, je sais, comme je le dis souvent, ce genre de film me procure une sensation de peur qui est une drogue pour la moi spectatrice, quoi. Genre vraiment le sentiment d'être au calme dans son siège, mais d'être mis en face d'une peur surnaturelle, enfin en tout cas celle qui me touche et celle qui m'amuse beaucoup. En fait, il n'y a pas tant de films que ça qui sont capables de me la procurer à une certaine dose, tu vois, parce qu'évidemment j'aime plein d'autres formes d'horreur et qui sont pas toujours les plus effrayantes ou qui vont pas toujours me traumatiser et qui parfois sont pas pour autant de bien meilleurs films, mais voilà, cette espèce de frisson qui est pas forcément du jumpscare, hein, pas forcément, mais voilà, les apparitions de fantômes et puis tout ce qui est image de cimetière, la nuit, dans la brume et tout, moi j'adore ça, j'en veux plein, et même si c'est pas toujours au milieu de films qui sont des chefs d'œuvre, bah j'ai envie qu'on me le donne, quoi, et bah la saga Conjuring elle le fait, donc...
Donc en fait c'est vraiment à cause de Judith que ces films de merde continuent d'exister,
voilà,
parce que dès qu'il y a un cimetière, elle y va, quoi.
Ouais, c'est ça.
Peut-être qu'on peut revenir aux origines, parce que tout à l'heure on parlait des Warren, en fait, vraiment, parfois j'oublie qu'à l'origine de ça, il y a donc Ed et Lorraine Warren, qui sont censés être des, je sais pas, des émissaires de Dieu, des voyants, des médiums, des gens qui libèrent les maisons des démons, les gens des démons, et donc c'est censé être une espèce de pseudo-histoire vraie de gens qui ont vraiment affronté des démons et libéré des gens.
Oui, c'est ça, eux ils se présentent comme lui étant, enfin dans les films, ils se la pètent en disant que c'est le seul démonologiste qui est pas dans l'église, et elle, elle est censée être médium. C'est ce qu'elle dit.
J'aime bien quand tu dis censé.
on parlera plus tard de le tirer d'une histoire vraie, parce que c'est hyper intéressant pour le coup, sur comment c'est un argument marketing. Mais oui, c'est ça. Ils sont censés être, ouais, du coup, une sorte de power couple qui marche grâce à sa foi catholique contre les démons. Ce qui est évidemment une histoire très américaine dans l'âme. Hein,
C'est-à-dire que c'est les Beyoncé et Jay-Z des démons, c'est ça.
Exactement.
À un point que tu ne soupçonnes pas, d'ailleurs. On en parlera plus tard.
Quel teasing! Mais vous les connaissiez avant le premier Conjuring, vous, ces gens?
Non.
Ok. Ouais, est-ce que c'est un truc américain alors?
Ouais, je pense que c'est très américain.
Rien. Après, en fait, on a tous vu Amityville et ils ont quand même largement participé à la médiatisation de l'affaire. Mm. Donc, en soi, ils sont là un peu, ils flottent, tu vois, dans l'imaginaire surnaturel. Et je pense qu'ils ont beaucoup participé à tout ce truc qu'il y a autour de la mythologie catholique dans le surnaturel, etc. Ils sont vraiment une pierre angulaire avant même que les films sortent. Et d'ailleurs, ils ont fait 9 bouquins, ils faisaient des conférences, et puis il y a déjà des films qui ont été tirés de certaines de leurs affaires où ils agissaient comme consultants, donc ils participent activement à la création de la mythologie derrière, et ils en tirent un profit.
Les rois et reines du catoporn. Et ce qui est intéressant, c'est quand le projet a été lancé, ils n'étaient pas du tout au centre de l'histoire, en fait, le truc a été lancé dans les années 2000, et c'est Ed Warren, je crois, qui a fait écouter les bandes sonores de ces sauvetages ou de ces canulars, au choix. C'est... Et que un prod qui s'appelle Tony De Rosa Grund, je vous en prie pour l'accent, s'est dit qu'il pourrait faire un film. Et ça a mis quelques années à un peu commencer à se lancer, jusqu'à ce que Peter Safran, qui est un des mecs les plus importants de cette saga chez Warner Bros, s'est dit on va engager des scénaristes. Et là, ils ont switché le point de vue, parce qu'au départ, c'était sur la famille hantée dans le premier Conjuring. Et ils se sont dit, les scénaristes, en fait, si on mettait plutôt au centre de l'équation les Warren. Et avec l'idée, dès le départ, de se dire, en fait, on pourra construire un univers avec des gens qui vont rester là du début à la fin et mettre en avant ces gens-là qui étaient dans l'ombre des films Amityville. Et pour le coup, ça devenait Warren Files. C'était leur saga, quoi. Vraiment les superstars. Et donc, ce projet lancé dans les années 2000 a mis une dizaine d'années à se faire. Comme quoi, alors qu'il y avait plein de films d'exorcisme à côté, il y avait quand même un peu une difficulté à financer, à croire en ce projet. Alors aujourd'hui, moi je trouve que c'est un peu cocasse parce qu'il n'y a rien de spécial dans ce film-là. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 10 ans, quelqu'un se dise « Ok, super idée, lançons-nous là-dedans » Alors en fait, c'est une histoire de maison hantée extrêmement banale. Le seul truc un peu intéressant qui arrivait dans l'équation, c'est construire un univers étendu éventuellement. Et dans les années, donc une dizaine d'années après le début, en 2011, de caster James Wan post-saut, post-insidious, c'est de se dire, ok, on file les clés de la baraque à quelqu'un qui sait faire des films d'horreur et qui sait tenir sa caméra, qui est un peu la seule bonne idée de cette saga, je trouve.
Après, je trouve que c'était une plutôt bonne idée, comme tu dis, de recentrer, de centrer à la fois sur les Warren et sur la famille. Parce que finalement, le trope du les Ghostbusters qui débarquent pour venir clarifier ta maison et qui repartent, ça commence à devenir un peu... Enfin, James Wan lui-même, il y est passé avec Inside Use, quoi.
Dans lequel, en plus, c'était comique dans ce film-là, c'était léger. Je trouve que c'est un des problèmes d'Inside Use, d'ailleurs.
Exactement. Et d'ailleurs, dans Inside Use, les Insidious.
On dit Insidious ou Insidious ?
Je ne sais pas. Mais je crois
que c'est Insidious, mais...
Ouais, je crois que j'ai raison, Mathieu.
Je pars du principe que quand je prononce un truc en anglais, c'est toujours l'autre prononciation qui est la bonne.
Tant que tu dis pas opu, non, ça ira.
Oh, je vais forcément
le dire.
C'est
opu d'Insidious.
Non, mais d'ailleurs, c'est amusant parce que dans Insidious, finalement, ils se sont retrouvés à faire ce qu'ils ont fait sur Conjuring, c'est-à-dire utiliser ces personnages-là de chasseurs de fantômes pour créer un univers étendu à partir de rien, qui est encore plus bancal parce que pour le coup, ils ont vraiment pas pensé le truc en amont.
Et oui, parce que Elise devient centrale dans les films d'après.
Ça devient un peu la Warren de la saga, quoi.
C'est vrai.
Ouais. Mais du coup, ouais, t'as cette idée de s'intéresser à qui sont ces Ghostbusters. Mais de façon sérieuse, pas comme dans Ghostbusters justement, et qui est pas mauvaise, hein, franchement, qui est une plutôt bonne idée. Je trouve qu'il fait un peu l'originalité entre gros guillemets, parce que évidemment Conjuring n'est pas un film foncièrement original du film.
Ouais, mais moi je pense que pour le coup c'est vraiment l'aspect histoire vraie, et je pense effectivement qu'aux États-Unis le nom des Warren devait être davantage connu parce qu'il y avait leur musée aussi dans leur maison, tout ça. Oui, bah, la pièce du coup du sous-sol où il y a tous les objets maudits.
Il est fermé d'ailleurs maintenant, je crois.
Oui, il est fermé effectivement parce que ça attirait trop de visiteurs, trop chiant pour le quartier, pour les voisins, enfin bref. Et puis en plus, je crois que le gendre du coup des Warren qui tenait le musée respectait pas tout à fait les... Enfin, c'était pas trop dans les clous comme business, quoi. Donc, bref.
Je veux voir ce film. Donc, il y a l'oncle pervers là qui a touché la poupée d'une manière bizarre pendant que vous n'étiez pas là.
Et du coup, comme il y avait la matérialité de la chose aux États-Unis, quoi. Donc, je pense que ça leur parlait davantage à eux. Et effectivement, le côté histoire vraie de tout à coup, on ouvre la boîte au trésor ou la boîte de Pandore, je sais pas, mais tout à coup, il y a plein d'histoires vraies qui peuvent ressurgir et faire. Enfin, en tout cas, c'était annoncé dès la promo du premier. Je crois que en gros c'était une histoire parmi plein d'autres et que du coup ça suggérait qu'il pourrait y en avoir plein d'autres derrière. Et moi du coup je me rappelle qu'à l'époque j'avais été hyper enthousiasmée par ça aussi, de me dire yes, un film d'horreur vraiment à la old school, en mode les portes vont claquer, je vais avoir peur, et il y en aura d'autres derrière, quoi. Donc ouais.
Oui, c'est que dans le premier Conjuring j'avais oublié que tu vois déjà la pièce, tu vois déjà tous les éléments, tu vois le samouraï, tu vois tout un tas de petits objets. C'est vrai que tu te dis parce que je crois qu'il y a un mec à qui Ed dit non, ne touchez rien dans cette pièce. Tout est intouchable parce que tout renferme quelque chose. C'est vrai que c'est un peu stimulant de te dire « Ok, je me demande ce qui se passe derrière cet objet qui a l'air anodin et je comprends l'excitation de ce côté-là. »
Et d'ailleurs, le film en joue très bien parce qu'en le revoyant, j'avais oublié, mais il y a le cliffhanger de la fin. Il est excellent parce qu'elle utilise cette genre de...
Le miroir qui tourne et la boîte miroir, à musique.
Qui a déjà été introduit comme le truc qui révèle les entités surnaturelles, en gros, à travers le miroir. Et le film se termine sur ce miroir qui fonctionne dans la fameuse pièce et qui reste le mystère sur ce qu'on va apercevoir dans la suite, qui est vraiment un cliffhanger de génie parce que vraiment ça annonce cet outil pour voir le surnaturel qui fait un peu flipper là. Et c'est parti, on est dans une pièce pleine et maintenant on va pouvoir s'amuser. Bon, si on savait à l'époque ce que ça voulait dire, on n'aurait peut-être pas été aussi heureux, mais je trouve que cliffhanger fonctionne très très bien. Enfin, après ça, t'as vraiment envie de voir ce qu'ils vont en faire, quoi.
Il y a deux cliffhangers dans ces années-là. Il y a la toupie d'Inception et le miroir qui tourne.
C'est ça.
C'est un peu ça. Hein.
Je pense qu'on peut les comparer. Et c'est vrai que le côté histoire vraie, c'est ce qui a apparemment motivé James Wan, qui sortait d'Insidious et Saw, donc visiblement il voulait pas forcément refaire un film d'horreur. Et il s'est dit, le côté histoire vraie m'intrigue et m'excite un peu. Et d'ailleurs, il en a beaucoup joué parce que pendant toute la promo, c'est vrai qu'ils ont foutu Lorraine Warren aux côtés de James Wan. Lorraine Warren qui a un caméo un peu à chier, enfin qui est pas très intéressant dans le film, je pense que ça aurait pu être un peu plus joli et poétique. Finalement, il n'y a pas de regard entre les deux Lorraine à travers la magie du cinéma, il n'y a pas de. C'est elle juste là, quoi.
Oui, bah heureusement que c'est pas trop racoleur, finalement. Voilà,
j'ai une blague comme Stanley, tu sais. Ça aurait été hyper drôle.
Non, mais je me dis, ça aurait pu être un peu plus intéressant pour que les gens captent le clin d'œil. Je me dis, si tu la connais pas, tu la vois pas. Mais bon, si c'était le seul problème du film.
Non, mais ce qui est intéressant avec du coup le côté histoire vraie qui est utilisé comme marketing, c'est que c'est vrai que c'est vraiment ce qui va titiller, je pense, les fans de films d'horreur. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de films d'horreur qui ont cette espèce de tagline tirée d'une histoire vraie, même si après on se rend compte que c'est vraiment très, très tiré par les cheveux d'une histoire vraie. Parce que du coup, en fait, on a vraiment l'impression que tout à coup, ça peut nous faire croire au surnaturel, tu vois, tout. Enfin, ça va faire tomber, ou en tout cas titiller un peu toutes nos certitudes devant le film, tout en étant dans le confort d'une salle de cinéma. Donc il y a un côté hyper excitant à ça, et je pense que c'est un truc qui fonctionnera un peu toujours, quoi, en termes d'histoire d'horreur.
Moi, je suis vraiment hyper client de ça. Toi, t'es très client des portes qui claquent et des cimetières. Moi, l'horreur, vraiment, j'adore le côté, enfin voilà, Massacre à la tronçonneuse, tout ça, j'aime le côté... horreur palpable. Mm. Et c'est vraiment un truc que j'avais adoré dans Conjuring, c'est le côté très premier degré dans ce traitement-là, avec le texte qui défile et le titre qui arrive. Je sais pas, je trouve qu'il y a une gravité et une manière de le mettre en scène qui est vraiment bien foutue de la part de James Wan et qui est pas encore complètement cynique, il est un peu bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose de ludique derrière et il y a vraiment une volonté aussi d'amener cette terreur-là sur toi-même, braver un peu ton propre scepticisme, comme tu disais. Et franchement, ça marche plutôt bien dans le premier. Oui, avec le texte et le truc qui défile et tout.
L'écran titre est cool.
L'écran titre est cool.
L'utilisation vraiment du jaune, de cette police.
Ouais,
ouais. Je trouve que
il est d'autant plus cool que ça embraye sur un plan hyper long aussi. Et très planant, qui se balade dans la maison, tu sais, et qui les voit arriver par la fenêtre. Et du coup, t'as l'impression que tout est un peu lié, le texte qui défile, les mecs qui arrivent dans la maison. Et bon, c'est hyper one de réussir à interconnecter tout ça, toutes les idées qu'il a dans son truc. Et franchement, ça fonctionne. Le début fonctionne trop bien, quoi. Tu rentres dans la maison et déjà t'as assimilé la maison avec le côté c'est surnaturel, mais c'est un peu vrai quand même. Mmh. Et j'adore.
Après, moi, la limite que j'ai avec ça, c'est que, au moins, enfin, particulièrement depuis le projet Blair Witch, l'étiquette est tirée d'une histoire vraie et fait tout autant partie de la fiction que les fantômes et les zombies. Donc en fait, une fois que tu mets ça, je me dis bon, en fait il y a eu tellement de films qui en ont joué pour se jouer de toi, que quand on le met à ce niveau, à Conjuring en 2013, enfin pour le coup je suis pas du tout sensible à ça, ouais. Mais ce qui me dérange, tu vois, pour embrayer sur ton introduction dans la maison là, c'est que un des premiers éléments de menace fantastique qui est posé, c'est que le chien veut pas rentrer dans la maison à la fin de ce plan là je crois. Et en fait là, ça commence à être un des problèmes du film pour moi, c'est que
c'est qu'on tue le chien.
Tout est...
Ouais, il y en a marre des films d'horreur qui tuent les chiens.
C'est terrible, le pauvre. Ah, il a une scène. C'est trop mignon en plus.
Oui, bah, écoute, non, c'est pas le problème du film. C'est qu'on a vu ça mille fois. Et en fait, dans ce film-là, je me dis, qu'est-ce qu'on réinvente ou qu'est-ce qu'on réexploite de manière un petit peu moderne, un petit peu malicieuse. Et pour moi, il n'y a rien. C'est ça le problème de Conjuring, c'est que je ne suis pas le plus grand client des exorcismes et des maisons hantées. Ça peut vite me faire chier. C'est pour ça que j'ai envie que ce soit un petit peu... qui est un peu vif, quoi, qui se passe un truc de spécial. Et je trouve que dans Conjuring, c'est un peu... c'est facile, c'est bien foutu, il y a un savoir-faire technique, mais en le revoyant, je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'en ai très peu de souvenirs. C'est qu'en fait, je me souviens de 3 ou 4 images, mais que globalement, le film est très plat, quoi. Moi, je trouve ça chiant.
Non, mais alors, je suis d'accord avec le fait que ça réinvente rien, et pourtant, encore une fois, je l'aime beaucoup, mais ça ne réinvente rien. Effectivement, on a le chien qui meurt avec le même procédé habituel qu'on voit dans 50% des films d'horreur. Il y a les oiseaux qui s'écrasent sur les vitres de la maison, ça, c'est pareil. Je veux dire, ça devrait être interdit maintenant. Il y a l'espèce d'exorcisme, enfin bref.
Les horloges qui s'arrêtent, enfin, tu sais, c'est que des trucs qui sont amusants, mais au bout du 10e cumulé, tu dis, bon, bah, en fait, c'est quand qu'il se passe un truc spécial.
Mais le truc, en fait, moi, là où j'aime ça et où je pense que beaucoup de gens ont aimé, c'est qu'en fait, ça, c'est aussi beaucoup de codes qu'on a vu dans des films qui n'étaient pas spécialement grand public ou qu'on voyait pas toujours au cinéma, tu vois, qui étaient parfois des direct-to-video ou des trucs que tu voyais en festival ou en tout cas des films qui étaient moins bien finis, qui étaient plus bricolés. Et là, en fait, c'est vraiment la synthèse toute propre, toute belle et bien mise en scène de tout ce que t'aimes, et on te l'offre, voilà, sur un plateau plus quali, on va dire, que là où tu les vois d'habitude, ces codes-là.
Mmh. Ouais, parce que James Wan, il sort de Inside Juice qui avait coûté quoi, $1 million, un truc comme ça.
Et que je trouve beaucoup plus intéressant, que je revois avec beaucoup plus de plaisir.
Mais moi aussi, j'adore Inside Juice, mais...
Inside Juice.
Mais je veux dire, on sent qu'il a changé de dimension en termes de budget, ouais, et qu'il s'amuse justement, plutôt que de transformer le truc en gigantesque surnaturel fest de trucs, ouais, qui polie vraiment son histoire, et ça fait plaisir quand même.
Oui, bah moi c'est ça le problème, c'est que je préfère qu'il ait moins de thunes et qu'il t'embarque dans une dimension parallèle, genre nowhere, zone ou je ne sais pas quoi, dans le noir, où il y a 3 bouts de ficelle, mais au moins ça fait décoller l'imaginaire, alors que la dernière partie de Conjuring, avec vraiment Lily Taylor avec un sac sur la tête qui se retourne au plafond et qui fait pendant 10 minutes avec des portes qui tremblent. Moi, vraiment, à ce moment-là, je me dis, mais c'est médiocre, tu vois. Je me dis, il y a plein de thunes, c'est bien filmé, mais à quel moment il y a de la peur là-dedans,
après,
tu vois. Je me dis,
la partie dans l'au-delà, ou je sais pas quoi, là, dans Inside Juice, c'est du poltergeist.
Ouais, mais je trouve que c'est moins du spectacle bas de gamme, de bruit, de trucs qui tremblent et tout, et c'est plus, tu vas dans une dimension où est le démon, du coup, c'est un truc un peu plus amusant. J'ai l'impression que c'est un escape game, tu vois, alors que la fin de Conjuring, je me dis, bon, en fait, c'est un blockbuster, ils ont un budget de 20 millions. Ce qui est quand même énorme pour un film d'horreur, quand même, relativement. Et bah là, ils t'en foutent plein la vue. Donc en fait, les gens se poursuivent à quatre pattes dans tous les coins, et ça devient un peu, je trouve, la résolution un peu sensationnelle, quoi. C'est là que je trouve le côté film de studio mainstream de il faut vendre un truc, il faut qu'à la fin il se passe beaucoup de trucs, les gens ils courent dans tous les sens en hurlant.
Bah moi, enfin c'est un peu cliché de dire ça, mais je trouve que c'est le budget un peu trop important entre guillemets, c'est presque le problème, parce que du coup ils essaient de le montrer, ils en font des tonnes à l'écran, alors que c'était pas obligé, alors que justement l'intérêt de tirer d'une histoire vraie, c'est un peu le problème qu'on évoquait, c'est que là justement ils laissent pas tellement place au doute sur l'interprétation, alors que ça aurait été vachement mieux, je trouve, si on était resté dans les visions de Lorraine et que y a plein de choses finalement qu'on n'aurait pas montré et qu'on aurait fait tout aussi peur, voire même plus. Par exemple, une séquence que j'aime beaucoup, tu vois, la séquence où la mère, elle joue à cache-clap avec, avec soi-disant sa fille, et en fait, voilà, elle se retrouve face à un fantôme. Tu vois, il y a la scène où on voit, du coup, les mains du fantôme qui clapent à travers les vêtements dans l'armoire. Ça, tu vois, si on en était resté là et qu'on n'avait pas explicité si c'était un fantôme ou sa fille, ça aurait été incroyable. Et que le film arrête de toujours montrer les esprits en gros plan et genre ceux qui pleurent du sang et voilà, et qu'on s'en serait tenu à quelques visions comme ça. Et c'est pareil, faire un exorcisme moins racoleur, moins, enfin pas d'exorcisme tout court, ça aurait été encore mieux. Je pense que moi j'aurais encore beaucoup plus aimé le film et ça aurait peut-être été plus nouveau, quoi.
Mais c'est vrai qu'il avait déjà cette tendance dans Insidious à montrer les démons en gros plan, le maquillage blanc que je trouve un peu kitsch, mais bon, je fermais les yeux dessus parce qu'en Insidious il y avait assez de scènes que je trouve glaçantes, du genre évidemment le moment où la mère parle avec Patrick Wilson qui joue donc Ed Warren dans Les Conjuring et que t'as le démon derrière lui à la table, c'est ultra intelligent. Et le moment où t'as ce souvenir du démon dans le coin de la chambre qui déploie sa main pour pointer du doigt le gamin hanté avec vraiment les griffes et le son, ça c'est vraiment le James Wan que j'aime, et je trouve que dans Insidious aussi il joue beaucoup sur des trucs qu'il a repris après dans la saga Conjuring, c'est de jouer sur la profondeur de champ, tu vois quelqu'un qui passe derrière la fenêtre, après il est déjà dans la pièce, quelqu'un est caché derrière le voile au-dessus du bébé, tu sais, c'est génial, ça c'est vraiment le savoir-faire le plus basique, et je suis d'accord que dans Insidious, notamment le moment où Lee Taylor est en haut des marches et que t'as le clap derrière elle et qu'elle est avec les allumettes, c'est ce que j'aime.
Conjuring, pas dans Insidious du coup.
Hein, oui, mais ça, oui, c'est ce que j'aime dans Conjuring, ça.
Oui, c'est oui, t'as dit Insidious, c'est pour ça.
Ah pardon.
C'est pour ça. Non mais cette scène-là, elle est incroyable. Voilà, c'est vrai que je suis d'accord qu'après c'est pris dans trop de choucroute, de on en fait trop et on en fait des caisses et tout. Mais malgré tout, tu vois, ça vaut tellement le coup. Ces quelques petites images, je trouve.
C'est 2 minutes 30 sur un film qui fait 1h50, quoi.
Non mais il y a pas que celle-là. Y en a d'autres.
En vrai, franchement, en le revoyant, moi aussi, en fait, j'aime ce James Wan un peu petit malin. Et je trouve que Conjuring rentre exactement dans cette définition parce que déjà, le gars, il devait utiliser une autre affaire pour introduire les Warren. Et franchement, tout t'aurait pointé vers Amityville parce que c'est la seule vraie affaire que tout le monde connaît et tout. Mais pour moi, pourquoi il prend Annabelle, c'est pas parce que il sait déjà que la poupée elle a un potentiel pour faire des spin-offs ou je sais pas quoi, c'est parce que pour moi le fait il veut vraiment encadrer son récit avec, bon alors je sais que c'est pas lui qui a scénarisé, mais je trouve qu'on peut vraiment en tirer cette conclusion, c'est que c'est un jouet en fait, et parce que la mise en scène de James Wan c'est juste du ludisme pur, c'est un jeu. Même il joue avec toi tout le temps. Et le fait de commencer avec Annabelle, je trouve que ça tient vraiment de la note d'intention. C'est vraiment, on va jouer avec la poupée, on va jouer avec les démons, parce que finalement tout ça, c'est Annabelle, c'est ce que tu veux. C'est une boîte à jouer avec plein de trucs, mais vraiment presque enfantin, quoi. Et on va s'amuser avec. Et je trouve que dans le Conjuring, il le fait à fond. Donc t'as parlé de la scène avec l'allumette et le clap. En le revoyant, j'ai vraiment ça m'a beaucoup fait rire, c'est la scène où elle se réveille la nuit et elle regarde sous le lit et tu sais c'est derrière la porte et c'est hyper long, il te fait tous les morceaux et vas-y que je regarde sous le lit etc, et franchement on dirait une partie de cache-cache avec le spectateur, et je trouve ça hyper malin et surtout hyper amusant, ça se prend vraiment pas, enfin si ça se prend au sérieux justement, j'aime bien le côté un peu au premier degré, mais oui ça se prend au sérieux, mais il n'y a pas ce côté
on boude pas son plaisir quoi,
ouais voilà, ouais, il n'y aura pas ça dans la suite où c'est contre-chance, jumpscare, des trucs comme ça, là tu sens que il est content de jouer avec le, à se dire ah si je le mets là, dans le contre-champ derrière on le verra pas, mais ensuite ça va tourner et tout, et franchement c'est un jeu auquel j'aime jouer, voilà. Moi en tout cas j'aime bien me faire mener par la baguette comme ça, et on se fait vraiment pas mener par la baguette je trouve dans le Conjuring, parce qu'il y a des moments qui te surprennent vraiment, en parlant de contre-champ, le contre-champ avec les pieds du pendu, c'est trop bien.
Ah, exceptionnel cette scène.
Je crois qu'en plus ça joue beaucoup derrière la porte, on ne voit rien. Et ça joue sur l'obscurité derrière la porte. Une petite fille qui hurle, qui tremble, ça dure longtemps.
D'ailleurs,
la grande sœur s'approche du derrière, tu dis mais il y a une main qui va sortir. En fait, il n'y a rien et ça joue. C'est ça que j'aime bien dans cette scène-là.
Cette scène, c'est que du noir filmé pendant 10 minutes. Enfin, j'exagère, 3-4 minutes. Et finalement, l'apparition en haut de l'étagère avec le jumpscare et le petit zoom un peu rapide, certes, elle est efficace parce qu'elle te surprend, mais ça fait beaucoup moins peur que tout ce moment où la caméra se retourne complètement pour aller voir sous le lit, qu'elle panote hyper lentement pour que tu t'essayes de deviner de deviner ce qu'il y a dans chaque moindre recoin de ce qu'il y a sous le lit, et j'aime beaucoup cette Jonathan, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans le premier Conjuring, qu'il y a déjà un peu moins dans le 2, et qui, alors, pour le coup, les gens qui ont suivi, étaient plus loin dans la saga, ils pensent l'avoir, chopé la formule, mais en fait, pas du tout. Mmh. Voilà.
Et James Wan, lui, quand il parle de sa mise en scène, il dit que c'est vraiment un tour de magie, il attire ton regard vers un coin pour faire un autre tour avec ses autres mains, et ce que j'aime bien dans la scène en haut des marches avec les allumettes, c'est que pour moi, c'est exactement ça. D'un côté, donc, elle, Lily Taylor, la mère, est en bas dans le sous-sol, il se passe des trucs flippants. Elle remonte en courant en disant « Mon Dieu », la porte claque, donc elle est enfermée, la lumière, l'ampoule a éclaté. Elle est seule dans le noir, elle sort des allumettes et elle allume en tendant les mains vers le bas des marches où il y avait la source du bruit de la menace. Et du coup, t'as un champ contre champ, elle, contre plongée sur les marches, une fois, deux fois, trois fois, te dit « Il y a un truc qui va sortir de l'ombre, il y a un truc qui va sortir de l'ombre ». Et c'est dans l'obscurité derrière Lily Taylor que les mains sortent, ce qui est exactement l'endroit où tu, a priori, t'attendais pas trop. Et c'est là que je trouve ça malin, c'est que lui réfléchit à comment tu te positionnes, où va ton regard, où va aller vraiment ton attention, et paf, c'est à côté que ça sort.
C'est un peu, ouais, ça, tu vois, ça c'est une formule qui est hyper efficace, mais qui était un peu reprise, et je croyais que c'était un peu une bonne idée, mais c'était moins bien dans La Nonne, on aura l'occasion d'en reparler, mais dans la scène du cercueil, tu vois, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va apparaître, oui, au pied du gars, ouais, et finalement c'est derrière sa tête, mais bon. Mais ouais, là c'était particulièrement bien mis en scène, particulièrement bien joué, et puis en plus Lily Taylor, elle est vachement bien, même dans ce rôle-là, quoi, et alors que c'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, oui, c'était le truc un petit peu dommage, c'était que c'était la séquence phare de la bande-annonce, un peu.
Je me souviens pas. Ouais, ah, il l'a mis, ouais, en avant. Ah, merde.
Ah, moi, ça m'avait beaucoup marqué dans la bande-annonce. C'est vrai que ça faisait partie des trucs où tu te dis, ok, ce film-là, je vais pas le rater, quoi.
Moi, ça m'avait marqué aussi parce que story time. J'allais au cinéma au Kinépolis de l'Homme dans le Nord, dans l'extrême Nord, comme on dit. En fait, ils avaient un gigantesque panneau qui remplaçait avec des affiches, mais vraiment parce que c'est un énorme multiplex. Et en fait, on se garait à chaque fois en face quand j'allais au cinéma avec mon père. Et à chaque fois, c'est des trucs énormes parce que c'était des blockbusters. Et du coup, c'était format, tu sais, en format un peu paysage. Ouais. Et ils casaient le plus de tronches d'acteurs connus. Des explosions partout, tu sais, pour les blocs, parce que c'est souvent des gros blockbusters forcément qui étaient sur ce genre de gigantesque panneau. Et à l'époque où il y avait Conjuring, et moi je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film avant ce moment-là, l'image, c'était juste le titre et l'image de Lily Taylor avec son allumette, et tout le reste du panneau c'était du noir. Et en vrai, en plus, ça capte un peu le côté un peu granuleux quand même de la photo, et franchement t'avais vraiment envie d'aller le voir, quoi.
Ouais.
Je trouve que ça marchait du feu de Dieu, de toute façon la promo était géniale, voilà.
C'est vrai que là, on parlait de Lily Taylor. Je pense que là, pour le coup, on est tous d'accord sur la qualité, globalement, la qualité de ces films en termes de qui est impliqué côté technique, artistique. C'est que le casting du film, notamment, est vraiment bien. Tu vois, même dans les mauvais films de Conjuring, Vera Farmiga et Patrick Wilson y croient à fond, ça fait tenir le film. Je trouve que souvent dans les films d'horreur qui sont de qualité bof, quand t'as des bons acteurs, des bonnes actrices, ça vraiment, tu marches à fond, quoi. Et d'avoir pris Lily Taylor et Ron Livingston, vraiment, je trouve que tous les adultes et les gamins aussi, mais les gamins, je trouve que souvent dans les films d'horreur c'est rarement un problème, tu sens qu'ils cherchent souvent des bons comédiens qui sont en train de commencer, mais des bons acteurs d'un bon calibre, je trouve que c'est une des grandes qualités de cette saga là et dans les inspirations, c'est moins ma cam que vous, mais c'est quoi les films, parce qu'ils ont cité tout un tas de références, et c'est quoi les films qui ont le plus inspiré James Wan pour Conjuring, à votre avis, James Wan et les scénaristes?
Bon, c'est les classiques, moi je pense que Poltergeist, c'est vraiment le film que James Wan est fan, parce qu'à chaque fois que... Peut-être parce que j'adore Poltergeist et j'ai peut-être biaisé, mais j'ai vraiment l'impression qu'il le cite tout le temps et en toute occasion, ce qui est tout à fait son droit. Hein. Tu pourrais avoir pire référence. Voilà. Après, moi, je pense que La Maison du Diable, c'est un peu la référence de tous les gens qui font ce genre de film, et ça se voit un peu aussi.
Je dirais, c'est pareil, c'est aussi la référence de tous les films de fantômes, Les Innocents de Jack Layton en 1961, oui. Vraiment, parce que c'est vraiment le maître étalon des apparitions fantomatiques en arrière-plan et tout, qui est encore un film absolument génial et terrifiant encore aujourd'hui, malgré tous les Conjuring qui sont passés derrière.
Alors, je ne suis pas un expert du tout de ce studio-là, parce que je le confesse, ça me marque pas plus que ça, désolé Judith, mais je trouve qu'il y a un côté un peu Hammer dans le deuxième, dans la photo, dans certains mouvements de caméra, etc. Mais bon, encore une fois, je suis pas expert sur ce plan là
Et est-ce qu'on parle un peu en détail, pourquoi vous n'aimez pas la dernière partie du film, le côté exorcisme? Parce que moi, je sais que moi, ça me parle pas. Par exemple, L'Exorciste de Friedkin, c'est pas un film qui m'a marqué, ça me fait pas peur, ça me fait pas grand chose. Donc, ok. Et toi, Mathieu, par contre, t'aimes bien, toi, tout ce qu'il y a autour de L'Exorciste?
Ça m'a traumatisé, ok.
mais tu trouves que la fin de Conjuring, elle est à peu près à la hauteur?
Pour moi, c'est pas compliqué. À partir du moment où Patrick Wilson dit bon, on va faire un exorcisme, je fais bon, ok, c'est bon, je peux arrêter le film. Je trouve ça vraiment pas terrible. En fait, le problème de L'Exorcisme au cinéma, c'est que c'est une série de poncifs qui ont été conçus par un seul film et que. C'est encore pire que le film de requin, parce que les poncifs, ils sont tellement évident, simple et facilement parodiable que même les films d'exorcisme que les gens aiment bien, comme L'Exorciste de Emily Rose, etc., ça peut être bien réalisé. Je trouve que c'est toujours risible, en fait. Désolé. mais vraiment, en plus, celui-ci, c'est hyper cliché parce que tu sens qu'ils veulent rendre. Vu que c'est climax, en fait, le problème aussi, c'est ça.
Oui.
C'est que c'est un climax. Et pour moi, ça fonctionne pas de faire un exorcisme en climax. Ce qui marche dans le Friedkin, bon, entre autres, entre millions de choses, notamment un rapport à la religion beaucoup plus intéressant que celui de Warner, évidemment, c'est qu'il y a une montée en puissance de ce que tu t'imagines. De ce qui peut arriver dans ce cas-là, en fait, là où bah c'est un climax, du coup il faut que ce soit le sommet spectaculaire, oui. Et bah ça devient des maquillages numériques et des gens qui sautent au plafond et qui se font traîner au sol et pff, oh là là.
Oui, puis vraiment j'ai l'impression que l'effet le plus spectaculaire c'est que absolument toutes les portes de chaque putain de placard tremblent et que on te donne l'impression que la maison est en train de se réveiller. Mettez dans le sous-sol et ça tourne autour de une figurante accrochée à un harnais avec un sac.
Après, je reprocherai jamais à Conjuring son côté un peu spectaculaire parce qu'on est quand même à une période où Paranormal Activity avait réussi à faire croire à tout le monde qu'il met une pièce vide, c'est ce qu'on appelait minimalisme. Je trouve que là, le fait qu'à la fin, il assume quand même d'aller dans le bourrin total, ça claque de partout. Vu qu'il refuse dans tous les cas de créer l'ambiguïté qui aurait été la plus intéressante, on est d'accord. Mais vu qu'il refuse d'y aller, autant y aller à fond et il y va à fond, c'est cool. C'est juste dommage qu'il ait utilisé l'exorcisme pour faire ça, quoi.
Et surtout que tout se conclut avec vraiment un truc niais quoi, c'est vraiment,
ouais.
Elle est libérée non pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de spécial avec un crucifix, c'est qu'en fait les Warren sont bloqués de l'autre côté de Paroi ou je sais pas quoi, elle a deux doigts d'égorger sa fille et lui dit repense à tes vacances à la plage,
ouais.
Et du coup ah oui d'accord je pose mon couteau, c'est vraiment, j'exagère à peine quoi.
Mais c'est un des problèmes de la représentation des exorcismes au cinéma de toute manière, c'est que en fait c'est toujours, ça repose sur une vision hyper simpliste de la foi et de l'amour et de le bien va vaincre si on y croit suffisamment, machin, et du coup en plus d'avoir une imagerie extrêmement réduite, d'avoir quelqu'un de ligoté à une chaise ou à un lit qui hurle et qui tourne la tête et qui vomit et ce que tu veux, et les autres autour qui scandent des points, enfin peut-être pas qui scandent, mais enfin qui
chantent aussi
des versets de la Bible. Voilà, c'est extrêmement limité. Et du coup, là, effectivement, on retombe aussi dans cette niaiserie. Mais d'ailleurs, c'est pas tellement que les films d'exorcisme. Je trouve que c'est aussi un travers des séries B d'horreur de manière générale.
Oui.
Parce que, bon, au bout d'un
moment. Dès qu'il y a des familles en plus.
C'est ça.
Des histoires d'amour.
Je serais moralisateur, ouais.
C'est un peu dommage, mais par contre je trouve que ce qui est intéressant dans le premier Conjuring, c'est que James Wan a quand même l'intelligence, c'est comme s'il avait conscience de la limite de l'exorcisme au cinéma et qu'il contrebalance quand même beaucoup avec les scènes de Hantis plus de fantômes, tu vois, où au fur et à mesure de toute la séquence d'exorcisme, t'as Lorraine Warren ou éventuellement un autre personnage qui se retrouve confronté à toutes les victimes justement du démon qui possède la mère Perron là. Et,
la mère Perron. Conjuring, la mère Perron.
Ouais.
nouvelle entrée dans le Conjuringverse.
Et du coup, bon, ça apporte des choses et ça vient contrebalancer. Et du coup, je trouve que cette séquence est moins pénible, moins ennuyeuse qu'elle aurait pu l'être.
Il y a une autre image que j'aime bien d'ailleurs dans ce film, un petit détail, c'est quand Lorraine, elle étend du linge dehors et qu'il y a un morceau de linge qui s'envole et qui se bloque quelques secondes avec une silhouette. C'est très facile, mais je trouve ça toujours hyper.
Et qui ensuite
cool,
va sur la vitre,
oui,
où elle la regarde, ce qui, d'un point de vue technique, imagine. Bon, moi j'adore me mettre du point de vue des fantômes dans le film, je trouve ça très drôle. Genre, ça demande une précision dans le soufflage de fantômes qui est très très forte quand même. C'est-à-dire que déjà elle doit faire la forme, et ensuite il faut que ça aille pile en haut à gauche de la maison pour montrer elle qui regarde. Ouh là là, dis donc.
Ah, mais non, moi je la trouve vachement bien cette scène. Alors, déjà, le fait que effectivement la forme se dessine sous le drap, alors c'est déjà vu, mais là c'est vrai que c'est fait avec une sorte de brusquerie qui est très efficace. Et voilà, le fait que ça se fasse en deux temps, avec ensuite le drap qui va imprimer finalement l'apparition derrière la fenêtre. Et j'ai trouvé ça hyper malin, ouais, comme si le... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper malin, hyper fun, hyper ludique aussi,
ouais,
et aussi effrayant.
C'est ça, en fait, tout ça, ça relève de tours de
prestidigitation. Oui.
Enfin, lui-même l'avoue,
ouais,
et l'assume dans sa mise en scène. Et pour moi, c'est vraiment le mélange entre je me prends en sérieux sur le côté histoire vraie, etc., mais en même temps, j'assume non pas un second degré, mais une modestie, en fait, qui rend ses films plaisants, et qui, je trouve, rend les trucs hyper cyniques, qui essayent de se revendiquer de lui par la suite. Beaucoup moins plaisant parce que du coup ça fonctionne pas du tout quand la volonté de jouer elle est plus là, en fait, quand c'est plus une volonté de jouer, c'est une volonté de te la mettre à l'envers, voilà.
Et donc Conjuring sort en 2013 et je me disais, bon, un univers étendu d'horreur, est-ce que c'est vraiment si incroyable à l'époque? Mais on est quand même un an après Avengers, et en 2013 Warner, le studio qui distribue Conjuring, venait de faire Man of Steel, donc ils étaient à fond dans les univers étendus. En fait, c'était assez logique, voire indispensable, de se dire on va faire la méthode Marvel sur les films d'horreur, sachant que il y avait déjà eu plein de sagas de films d'horreur avant. Mais disons que d'en faire un univers étendu énoncé comme tel, avec des spin-offs, des préquels, des trucs qui sont un peu séparés et surtout qui sont aussi rapprochés et énoncés comme comme tel dès le départ. C'était un peu une grosse ambition à l'époque. Et ils ont eu raison, vu comme ça a cartonné. Moi, ça m'amusait, j'avais oublié que dans le premier Conjuring, effectivement, le tout premier plan, c'est Annabelle. Ouais. Donc en fait, le tout premier truc de l'univers horrifique Conjuring, c'est Annabelle. Donc tu m'étonnes que ce soit elle qui soit arrivée directement après. Et quand on en parlait l'autre jour, c'est toi, Judith, qui a commencé à dire qu'en fait, dans l'univers Conjuring, il y avait vraiment deux sous-univers. Il y avait le côté Annabelle-verse avec Conjuring 1, où elle apparaît, Annabelle 1, 2, 3, donc la trilogie Annabelle qui suit le premier Conjuring. Et ensuite, il y a Conjuring 2 qui montre la nonne, donc la nonne 1 et 2, et tout ça forme peut-être le non-verse, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc en fait, dans le Conjuring-verse, il y a vraiment le côté Annabelle-verse et le côté non-verse.
Ce qui fonctionne car c'est un non-univers.
Hein. C'est ça. Je crois qu'on peut tous dire que le côté Annabelle-verse est le moins mauvais.
Moins ouais. Pire, ouais, ouais. En même temps, dans le non-verse, il y a quand même le deuxième Conjuring que moi j'aime bien aussi, mais bon.
Oui, c'est pas le plus mauvais, quoi. Et par contre, Conjuring 3, la malédiction de la Dame Blanche, on sait pas trop où les caser à part dans le dépotoir, donc on va dire qu'elles sont du côté non-verse.
La malédiction de la Dame Blanche, c'est vraiment un truc à part de base. Et
oui, parce que c'est pas officiellement, mais ils ont joué sur le fait qu'il y avait le père Pérez de
Annabelle.
Ils ont
juste reshoot le truc pour le faire rentrer au forceps dedans pour la promo.
Et bah, y a le plan sur Annabelle aussi, qui est sûrement d'ailleurs le même qu'il y a au début de Conjuring. Bah, en fait, quand le prêtre il en parle, il dit oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une poupée maléfique machin qui m'a fait changer d'avis à une époque sur le surnaturel. Juste au moment où il dit ça, t'as un vieux plan, genre tu sais, un peu sépia ou quoi, qui revient sur Annabelle.
On en reparlera plus tard quand on parlera de la malédiction de la Dame Blanche. Oui. Mais... Ouais. C'est assez marrant pour le coup.
C'est un peu le symptôme aussi d'un univers où tu te dis bah, il faut continuer, on met l'étiquette Conjuring, mais on n'assume pas vraiment, et du coup ça fait un des pires films, je crois, à peu près objectivement. Bon, parlons d'Annabelle alors, puisque c'est quand même le premier qui est arrivé, et que Annabelle 1, il a été commandé après qu'on parle de Conjuring 2, et pourtant il a été tourné et sorti avant.
Sachant qu'à l'époque, il y avait déjà des velléités, on va dire, d'ouverture d'univers, bon, très vaguement, parce que dans la promo, il y avait eu un truc qui s'appelait... The 3-7 AM Project, et qui était une collab entre Vice, le journal, et Warner, du coup, pour faire... Alors, c'est un film à sketch de 6 minutes, donc autant vous dire que les sketchs ne sont pas longs.
Des sketchs de 12 secondes.
Ouais, ils font à peu près une minute chacun, et c'est plusieurs réalisateurs qui ont fait des mini-séquences qui devraient plus ou moins... Mais bon, en fait, l'étiquette Univers Conjuring, à ce moment-là, c'est juste des trucs qui font peur, hein, on va pas se mentir. Et dedans, notamment, il y a Ty West, quand même, qui a fait un cours, est le plus mauvais des quatre.
Ah ouais. Voilà.
Et c'est un énorme fan qui dit ça, vraiment.
Les autres réalisateurs sont connus ou il y a que lui
Je crois qu'il y en a un ensuite qui a fait un truc qui a plutôt pas mal marché, mais genre, il n'y a aucun gros pont, ouais. Tu vois, de l'épouvante.
Guillermo del Toro n'est pas dedans.
Non. On en aurait peut-être un peu plus parlé, parce que pour le coup, le truc est un peu tombé dans l'oubli. Il y en a un qui est pas mal, qui se passe sous l'eau. Bon, il y a un jumpscare, et forcément, ils fonctionnent tous à peu près avec un jumpscare. Mais il y en a un qui est pas mal, il se passe sous l'eau. Je l'ai vu en salle à l'époque, dans une nuit, je crois. Et qui est assez rigolo, parce que pour le coup, c'est original. Enfin, il y a une originalité qui, ironiquement, il n'y aura pas dans le reste de la saga.
Et Annabelle apparaît dans chaque court-métrage.
Non, pas du tout.
Ah!
C'est juste des histoires d'épouvante autour plus ou moins l'univers Conjuring, mais bon, ça se limite à voilà, c'est des trucs fantastiques, quoi, et qui sont censés faire un peu peur, et bah, c'est juste un truc qui a été lancé en collaboration, ouais. Mais t'as quand même déjà le côté un peu univers, quoi, tu vois, c'est un univers de trucs qui font peur. Voilà.
Ok. Ouais, du coup, Annabelle 1, on sent qu'on descend un petit peu quand même en gamme, hein, puisque, bon, déjà, le film est pas très bien, hein, n'est-ce pas, Judith? Et il a coûté 6 millions contre 20 pour le premier Conjuring. Il a été tourné quand même dans des conditions un petit peu plus resserrées, vraiment.
25 jours.
En combien?
25 jours. Eh ben, ce qui est très peu pour un long métrage,
ouais. Et tu sens vraiment qu'il fallait remplir un créneau dans l'agenda pour faire patienter avant Conjuring 2, qui est sorti plusieurs mois après. Qu'est-ce qu'on pense de ce Annabelle? Je sais que Judith essaie souvent de nous convaincre qu'il y a des trucs pas trop mal. J'ai revu des scènes sur tes conseils et je t'en veux encore plus.
Non, oui, écoutez, moi je suis évidemment d'accord pour dire que c'est pas au niveau de Conjuring.
Et ben voilà, on va s'arrêter là.
Et oui, ça a tous les défauts du monde de ça repart sur les mêmes clichés et c'est vide et le casting pour le coup est beaucoup moins crédible à part dans les seconds rôles, on en parlera voilà, que dans Conjuring. Bon, plein de choses qui vont pas et malgré tout, je comprends pas pourquoi il se fait autant bâcher parce que je trouve que c'est quand même vraiment pas le pire du Conjuringverse. Je trouve que pour le coup, moi j'aime bien l'image, je trouve que la photographie est belle, je trouve qu'il y a quelques scènes qui fonctionnent comme. Non mais la scène de l'assassinat chez les voisins par exemple qui est bien pensée en termes de mise en scène.
Je suis d'accord que voilà. Pour le coup ça rend la malice, la modestie de James Wan d'avoir les voisins de l'autre côté de la fenêtre qui se font assassiner, la lumière se réveille, t'as un jet de sang, une silhouette arrive, la lumière chez eux s'éteint et là t'as l'héroïne au premier plan qui se réveille. Je trouve que c'est vraiment simple parce que c'est toi qui construis vraiment la mise en scène,
oui.
T'as un plan fixe et c'est toi avec les différentes profondeurs de champ qui vois qui voit l'histoire se construire.
Ça me fait penser à Scream 4, d'ailleurs, cette scène.
Ah, ouais, c'est vrai.
Mais parlons pas... c'est vrai que dans le... en parlant de mauvais films d'horreur, c'est vrai qu'on peut parler de Scream 4.
Non, mais oui, s'il y a cette scène-là, il y a... Qu'est-ce que j'aime bien aussi. Ah oui, alors... Pardon.
Elle-même,
alors,
c'est plus.
Alors déjà, c'est moins pire que le Conjuring. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre argument?
Non, mais il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. Il y a aussi cette espèce d'utilisation. Alors, je sais pas exactement si c'est du mauvais goût ou si c'est une bonne idée, mais du background de la secte Manson et l'assassinat de Sharon Tate. Alors, je trouve ça globalement toujours de mauvais goût d'essayer de réutiliser ça comme élément racoleur dans des fictions. Mais là, du coup, simplement réutiliser, alors que ça se passe à cette époque, le thème des sectes qui engendrent des assassins, des tueurs en série, je trouvais ça pas mal joué. Puis le fait qu'elle entende parler à la télé et puis que bah, tout à coup après ça arrive chez elle, un peu comme dans les histoires où on se racontait au coin du feu quand on était gamin, de genre des campeurs entendent à la radio qu'un fou s'est échappé. Voilà.
Oui, parce qu'eux ils vivent dans un lotissement à peu près tranquille, ils entendent qu'il y a des gens fous, elle se fait réveiller dans la nuit par un hurlement et en fait. Moi, en revoyant le film, je me suis dit, mais je me souviens même plus de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a déjà Annabelle qui s'est réveillée à côté et tout? En fait, c'est vrai que c'est un couple de fous qui après vient chez eux pour prendre la poupée et la poignarde dans le ventre, elle ouais. enceinte. Donc il y a quelques trucs au début qui sont pas trop mal comme ouais. pour poser la situation.
Ouais. Oui, oui. Et en fait, du coup, l'héroïne à ce moment-là, enfin son mari lui a offert Annabelle justement parce qu'elle collectionne des poupées ah oui, flippantes accessoirement.
La scène où elle découvre Annabelle, ouais. Oh, c'est trop beau. Tu te fous de ma gueule.
Mais oui, ça, c'est trop mignon. Drôle. Au début, je me suis dit, au début, elle ne dit pas qu'elle le voulait parce qu'au début, je me suis juste dit, ce mec est un psychopathe, il lui offre Annabelle. En disant regarde j'ai un cadeau chéri pour ta grossesse et il lui offre le démon quoi, un porcelaine qui on dirait que le truc il est immense quoi, il est aussi grand qu'un gamin de 12 ans et après par contre elle réagit en disant depuis le temps que je l'ai cherché tu dis ok vous êtes fous tous les deux vous êtes bien trouvés quoi et elle la pose sur son étagère de démon en disant elle est trop belle quoi
ah, ça va tout pile.
A lot can happen in the next 3 years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pour des raisons compliquées, j'ai dû revoir le film en VF.
Ah.
Et les dialogues sont encore plus niés à mort, mais quand elle est enceinte, c'est horrible. C'est oh là là, notre vie ensemble qui reprend, c'est vachement bien. Et là, elle lui montre la poupée dégueulasse qu'il a trouvée clairement dans une poubelle de je sais pas où quoi.
Non, elle est toute propre au début, elle est toute blanche.
Ouais, mais ça veut-tu que quelqu'un puisse vouloir cette poupée en disant elle est trop jolie quoi. Genre, c'est pas possible.
Le design, parce que là, ils ont essayé, parce que forcément, ils étaient obligés de s'en tenir au design de la poupée qu'ils avaient établi oui. au début, au moment où elle était déjà flippante au début de Conjuring. Mais du coup, là, ils essaient de la rendre toute propre, toute blanche et tout, pas du tout taché. Mais en fait, voilà, elle a quand même des mains d'homme de 45 ans.
Mais oui, elle est énorme, c'est ça qui est dingue, c'est que cette poupée est immense, quoi.
Mais bon, pour revenir un peu sur les scènes que je trouve bien aussi, alors je voulais rabâcher, mais il y a toute cette séquence où du coup, Mia, l'héroïne, descend au sous-sol de l'immeuble et se retrouve coincée dans cette espèce de sous-sol où il n'y a évidemment pas de lumière.
Alors déjà, on peut s'arrêter sur le fait qu'en pleine nuit, elle descend foutre un truc dans la remise, dans un endroit super glauque, parce qu'elle n'a vécu aucun moment traumatique dans les heures précédentes. Quoi. Mais bon.
Oui, bah ça, si on commence à remettre en cause le fait que les personnages de films d'horreur sont stupides, oui, il n'y aurait pas de film. Hein, mais du coup, donc elle se retrouve dans ce sous-sol qui est plongé dans le noir. Elle voit une silhouette de démon au fond de la pièce qui se tient immobile. Alors déjà, les silhouettes qui se tiennent immobiles, déjà, en général, ça fonctionne.
Mathieu se moque déjà.
Si vous voulez faire plaisir à Judith, tenez-vous immobile dans la...
au milieu de la cimetière et c'est bon.
Et donc elle retourne dans l'ascenseur qui lui est éclairé et elle appuie sur un bouton, vite donc elle est terrifiée, les portes se referment, on pense que l'ascenseur monte, les portes se rouvrent et en fait on est toujours au même stade. Et du coup, bah, nous on a l'impression d'être enfermés dans l'ascenseur avec elle et on se projette trop bien dans cette impression que bah, l'ascenseur il reste coincé toujours au même étage, c'est un peu une phobie de tout le monde je pense, enfin bon c'est hyper efficace. Donc elle fait ça plusieurs fois, ça marche toujours pas, au bout d'un moment elle prend les escaliers et quand elle est dans les escaliers donc elle monte en courant. Et les escaliers sont aussi plongés dans le noir. À un moment donné, elle se retourne Et dans les escaliers, il y a du coup la même silhouette qui est tapie dans les marches comme si le type, enfin le démon rampait dans les escaliers. Il bouge pas, juste il la regarde avec des petits yeux lumineux. Et pendant quelques secondes, il n'y a pas de bruit. Et je trouve ça, enfin cette image-là, je la trouve saisissante. Alors certes, elle est gâchée juste après.
Tu peux nous dire ce qu'il y a après quelques secondes.
Oui, voilà, il y a un vieux jumpscare à la con derrière avec un gros plan sur son visage et elle qui hurle. Et bon, voilà. Mais pendant quelques secondes, on se dit putain, mais oui, c'est ça que
ça
je veux.
Ça pourrait être
quoi.
Bien.
Oui, bah oui, oui, oui. Ouais, voilà.
C'est vrai que je suis un peu d'accord sur le fait que ça aurait pu être bien. Et je suis assez sensible, comme toi, à ce genre de présence démoniaque, d'un truc un peu imperceptible, d'une forme noire, des yeux un peu qui brillent dans la nuit, qui bougent pas. Ça fait un peu 1, 2, 3 soleils des enfers. Mmh. Dès que tu te retournes, le truc ne bouge pas. Mais quand tu te retournes pour avancer, il peut continuer à avancer. Je trouve que ça marche très bien.
Mais oui.
Et le problème, c'est que cette scène est ponctué de petits moments qui sont vraiment les artifices de merde du cinéma d'horreur. C'est ça qui me dérange, c'est que les quelques moments que je trouve plutôt pas mal, ils sont toujours gâchés, notamment ce jumpscare de merde à la fin où t'as quasiment l'impression que, je sais pas, c'est un peu comme, je crois que c'est The Descent 2 qui finit pareil avec le démon qui revient, tu dis mais pourquoi avoir fait ça, t'as l'impression que c'est vraiment le, ou dans les mauvais Insidious, dans les mauvaises suites, t'as vraiment la tête qui sort du noir pour te dire je vous rappelle qu'il faut avoir peur et il y a un démon, non mais s'il vous plaît, arrêtez.
À la fin de Sinister aussi, c'est tellement triste.
Ah oui, exactement, ouais. La fin de Sinister.
Ah oui,
c'est
qui,
fou quand même.
Fout en l'air un final glaçant.
Exactement, ouais. Il y a déjà bien assez d'angoisse à la fin de Sinister pour pas rajouter l'espèce de... En plus, c'est fou parce que t'as l'impression qu'il se tire vraiment 3 balles dans le pied. Quand tu montres le truc de trop près, ça devient ridicule. Tu vois que c'est un clown et que c'est quelqu'un de maquillé. Donc c'est un peu dommage, ces moments qui sont un peu ratés. Moi, il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est... Pour le coup, c'est quelque chose qui est plusieurs fois utilisé dans la trilogie Annabelle. C'est cette panique à avoir quelqu'un qui court vers toi, dont tu entends les lourds pas qui accélèrent et tu ne sais pas exactement ce que c'est. Et alors là, il se trouve que tu vois ce que c'est. C'est Mia, qui donc s'appelle comme Mia Farrow, qui joue dans Rosemary's Baby, parce que vraiment, ils sont très subtils dans la référence, qui est dans une chambre et de l'autre côté du couloir, tu vois la femme qui a essayé de la tuer au début, qui est debout, statique, là. Judith dit que c'est génial parce qu'une personne est immobile dans un couloir.
Voilà, exactement.
Et cette femme commence à courir très...
C'est une petite fille.
Ah, c'est la petite fille. Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. C'est la petite fille. Ok, donc c'est la petite fille. Et en traversant la porte dans sa chambre, se transforme en adulte. Donc l'adulte qui essaie de la poignarder. Qui l'a poignardée. Et je trouve que ça marche très bien parce que le raccord se fait avec la porte qui bouge en un cut très simple. Et pour le coup, t'as vraiment une surprise de panique parce que tu dis, bon, bah c'est un effet facile. C'est une petite fille qui court, je suis censé avoir peur. Et là, c'est une femme.
Bah ouais, donc on en est quand même à au moins 3 séquences qui marchent bien. C'est quand même pas mal.
Alors, la suivante.
Après, non, mais j'admets que.
On dirait, tu sais, qu'elle a relié un des articles, elle dit il y a au moins trois mots, il n'y a pas de faute d'orthographe.
On
donc
est
bravo.
À 3 sur 20 déjà. Non, mais j'avoue que quand je regarde ce genre de film, j'ai une sorte de filtre, tu vois, qui me fait me dire voilà, en fait, là, j'aime parce que je vois ce que la scène a de bien ou je vois ce qu'elle aurait pu avoir de bien et que parfois ça me suffit, tu vois. Comme je suis rarement rassasiée de ce genre de drogue dont je parlais plus tôt, de cette envie d'avoir peur, je passe beaucoup de choses à ce genre de film quand ils savent malgré tout me donner un petit peu de ces images-là.
Et on peut quand même redire que le film est réalisé par John Leonetti, qui ne sort pas nulle part puisque c'est le chef-op de James Wan, sur notamment Dead Silence, le premier Conjuring, Insidious 2, donc il connaît un peu la mécanique et il connaît un peu les méthodes de James Wan. Quoi.
Mais c'est beaucoup plus rigolo de le présenter avec sa carrière de réalisateur. qui comporte notamment un film absolument génial qui s'appelle Mortal Kombat 2 Destruction Finale, qui est un film qui a quand même la particularité d'avoir un final hyper moche, et ce n'était pas par manque de temps, mais parce qu'ils avaient la flemme, et ils l'ont littéralement dit, et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, en fait.
C'est
voilà,
pas aussi lui qui a réalisé L'Effet Papillon 2, je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment une grande filmographie de réalisateur. Ah,
mais alors justement, quand il a été engagé pour faire Annabelle, il a voulu, enfin parce qu'en fait, il tenait, après L'Effet Papillon 2, à ne pas être considéré comme réalisateur de suite. Donc il s'est dit, tu en arrivant sur Annabelle, il a bien dit, non, c'est pas une suite, c'est juste une nouvelle branche d'un univers à part entière. Voilà. Bah, d'ailleurs, pas réalisateur de suite parce qu'il sera pas resté. Par contre, il faut quand même noter que le plateau était tenté.
Alors, c'est vrai qu'on parlait de surtout le film Conjuring, quelqu'un raconte que, je crois que c'est James Wan qui racontait que sur le premier Conjuring, Vera Farmiga se réveillait toutes les nuits, elle avait du mal à dormir entre 3h et 4h du matin. Exactement comme dans les films lui-même.
Ouais, exactement comme 60% de la population, je pense. Enfin, Mais alors là, le plateau a été tenté, parce que comme il le racontait au Hollywood Reporter, en fait, il y a eu 2 incidents, vous allez voir vraiment les incidents, ils sont vraiment extrêmement crédibles et très très effrayants. Donc la première fois...
Je sens l'ironie.
La première fois, c'était pendant la prépa, ils sont rendus dans l'appartement qui servait de décor. Et en fait, c'était un soir de pleine lune. Et à un moment donné, ils ont vu que sur une fenêtre, bah en fait, il y avait la trace de 3 longs doigts qui avaient été laissés dans la poussière. Et leur démon, il avait 3 doigts. Et là, vraiment, tel que c'était éclairé, t'avais genre la lune qui passait à travers les traces. Ils étaient en mode, waouh.
Moi, je suis sûr que c'est quelqu'un d'équipe qui est fan de Titanic et de la scène. et qui s'est dit, je fais une référence à Kate Winslet.
Donc, premier incident, déjà tout le monde flippe. Okay. Deuxième incident, rapporté par Safran, pour le coup. Donc, en fait, c'est le premier jour où ils ont tourné avec le type qui jouait le démon et qui était entièrement maquillé. Donc, le mec prend l'ascenseur, sort de l'ascenseur, donc en démon. Et à ce moment-là, un luminaire du couloir, de ce que j'ai compris, est tombé sur la tête du gars qui jouait le concierge. Alors que justement, dans le film, c'est à cet endroit-là que le démon tue le concierge ou un truc comme ça. Et là, ils se sont dit, mais c'est fou. Et par contre, ce qui est drôle, c'est qu'ils racontent absolument pas si l'acteur allait bien après.
Il est mort, mais c'était super.
Quelle coïncidence de fou. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup, c'était très éclairant. Judith, ça me donne encore plus envie de détester ce film de merde.
La machine marketing de ce truc ouais, commence à entrer en branle et mon dieu qu'elle va être efficace.
Non mais par contre ce qui est fou c'est que, excuse-moi, c'est que par contre
hein.
pour le résultat que c'est, Leonetti a quand même insisté sur le fait qu'il avait millimétrer chaque plan, qu'il avait été extrêmement consciencieux dans sa préparation, et que donc voilà, dans les, évidemment dans les inspirations il y avait Rosemary's Baby pour le personnage de Mia, il disait que voilà, chaque plan avait été très réfléchi, que chaque arc de personnage avait été précisément étudié, il avait aussi voulu que le film soit tourné de manière chronologique pour que voilà, les acteurs restent bien dans la continuité de leurs émotions.
Voilà. ça me tue quoi. C'est qui, c'est pas Louis Leterrier qui a dit non mais sur Fast 10 on a vraiment une construction avec un début, un milieu, une fin, et genre il fallait l'applaudir.
Il disait ça des scènes d'action, il disait moi je trouve que ce qui fait que nos scènes d'action sont quand même vachement mieux, c'est que bah voilà, elles ont un début, elles sont au milieu, elles ont...
Là j'ai l'impression que Leonetti te dit mon film est bien, j'avais un découpage.
Ah ouais, c'est ça.
Et j'avais des storyboards. Genre,
on a tourné avec un plan de travail.
Mais c'était... Comment ça se passait sur l'effet papillon? Ah, peut-être sur Mortal Kombat 2, il n'y en avait pas, c'est pour ça. Il s'est dit, putain, on a un découpage, les gars.
Cette fois, j'ai pas eu la flemme de faire la fin.
Sur Mortal Kombat 2, il y aura un mec qui est revenu après l'interview qui a dit, bah en fait, à un moment, il y a vraiment des gens qui se sont, dit, mais c'est franchement dégueulasse, ça vous dit. Je crois même qu'en fait, c'était les effets spéciaux préliminaires, ça devait être un genre de prévise ou un truc comme ça. Et ils ont dit, bon, alors, on s'attaque à les faire en mieux. Et là, il y a vraiment un mec qui arrivait derrière, genre un prod qui a fait, bon, ça va là, où est le problème? Pourquoi on mettrait 3000 balles de plus pour que ça ressemble à quelque chose? Voilà.
Moi, le truc aussi que je trouve vraiment nul pour vraiment conclure sur Annabelle 1, c'est quand même l'arc de la voisine qui l'aide et qui à la fin se suicide pour donner son âme à la place de l'enfant. Donc vraiment le personnage accessoire nul avec un arc archi nul et qui se suicide de manière complètement kitsch à la fin alors que tu n'as pas d'attache émotionnelle à elle. Elle est arrivée pour donner un parchemin, pour expliquer qu'il y avait un démon, dire attention, elle est enfermée de l'autre côté de la porte, elle revient, jette par la fenêtre dans un moment hyper drama. Je pense que c'est un des pires conclusions dramatico-dramatiques de tous les Conjuring quand même, d'avoir insisté à ce point-là sur elle.
Bah, elle est complètement personnage fonction, et donc par contre elle est interprétée par Alfred Woodard qui est quand même une très bonne actrice. Voilà, et
pas que Desperate Wife, je sais que
oui, bah, ça
dans
compte.
La rédaction aussitôt ça a parlé Desperate Wife, elle a fait d'autres choses.
Mais j'avoue que moi je peux pas m'empêcher d'être un petit peu sensible toujours à la thématique du sacrifice comme ça. Alors j'avoue que les scènes de suicide, sacrifice, c'est hyper facile et cliché dans les films d'horreur, mais j'aime toujours un peu bien ça.
Je suis en train de me rendre compte que cette scène ressemble beaucoup à celle de Conjuring 2 à la fin, quand il est pendu à la fenêtre. Là ils sont à une fenêtre aussi. Ah là là, ça se renouvelle dans les motifs. Peut-être qu'on peut parler un peu d'Annabelle 2 qui est quand même vachement mieux, même si c'est juste comparativement au premier.
Avant d'en arriver à Annabelle 2, il faut dire pourquoi il y a Annabelle 2. C'est parce que le premier a quand même marché.
Ah oui.
Oui, parce certes. Que il a quand même rapporté 257,6 millions au box-office pour donc un budget de 6,5 millions. Donc voilà, belle plus-value. Et lors du premier week-end d'exploitation aux États-Unis, il rapporte 37,1 millions face à Gone Girl qui passe devant de 37,5 millions. Donc voilà.
Et ben, wow. Le monde avait le choix entre deux films et il y a une partie du monde qui a été voir Annabelle. Quoi.
Mais c'est là aussi que tu vois que ça les a rendus fous en fait. Enfin, c'est fou quand même. Ouais. Enfin, c'est dingue la thune qu'ils ont dû se faire.
Ouais.
Alors je pense que le budget promo est énorme pour ce genre de film, beaucoup plus que le budget. Mais quand même, c'est impressionnant quoi. Et j'ai l'impression que la saga Conjuring, elle a toujours aussi un peu servi de baking à Warner et à New Line quand ils faisaient des trucs un peu plus risqués. Ils savent qu'ils ont toujours la même formule qu'ils peuvent rabâcher parce que même les films qui ont moins marché, ça reste. En termes de rentabilité, c'est énorme.
Et en plus, on parle que de l'exploitation sale, mais j'imagine la carrière qu'ils doivent avoir après, parce que c'est typiquement le genre de truc qui est consommé, alors plus en vidéoclub, mais en VOD, SVOD, enfin voilà, c'est le
jeu. J'ai même à se demander pourquoi ils gonflent un peu les budgets par la suite, c'est qu'ils ont pas tout fait les films pour 7 millions de dollars, parce que finalement, tout ce qui fonctionne, c'est la tête de la poupée, quoi. Les gens, ils voulaient voir que ça, et même si dans le film, la poupée ne fait rien.
Mais c'est ça qui est génial. Dans le premier Annabelle, t'as genre 43 plans où ils fixent la poupée. Et tu te dis, elle va bouger. Et elle a pas bougé non plus. Allez, on continue.
Mais c'est parce que c'est un intermédiaire, enfin.
Mais limite, je trouve que ça, c'est pas mal dans le film d'avoir des plans aussi longs avec des légers zooms ou travelling pour que tu te dises, ils savent que je m'attends à ce qu'elle bouge et ils me donnent pas à chaque fois la ration un peu nulle de quelqu'un sort de la pièce et t'as le doigt qui bouge. Je trouve que c'est pas trop mal dans le film que ça joue sur le fait que c'est une page blanche ce truc. Et le démon est juste tapis quelque part dans
l'ombre.
Elle
reste blanche, hein, c'est ça le problème. Ils écrivent pas dessus, donc c'est chiant, quoi.
Et donc, Annabelle 2, suite à ce succès, a été lancé un peu plus tard. Et bon, quand même, Annabelle 2, je trouve que la grande qualité, c'est que pour le coup, ils ont vraiment regardé un peu l'extérieur et ont pris quelqu'un qui sait faire des films, qui sait plutôt bien filmer.
Non, mais il y a deux scènes en dehors du décor de la maison, quand même. C'est une grande.
Je parle du réalisateur, ne commence pas à attaquer le film, quand même, pour une fois que j'en défonce pas un dans cette saga. Le réalisateur, c'est David Efsenberg, qui avait fait un court-métrage qui s'appelle Lights Out. C'est comme ça, le court-métrage aussi. Dont il a tiré un long-métrage qui s'appelle pareil, produit par James Wan. Donc, en voyant que le film était pas mal, il lui a confié les reine d'Annabelle 2. Et pour le coup, ce mec-là, il a vraiment... c'est un petit malin à la James Wan, quoi. Son court-métrage, c'est vraiment un petit trésor de simplicité fait avec trois bouts de ficelle, avec un jumpscare, mais qui joue beaucoup sur la profondeur de champ. Alors, je sais que Mathieu, il soupire un peu parce qu'il a vu 45 fois un festival et il est trop habitué à ses films de genre sur 3 minutes.
Le problème,
là,
c'est que court-métrage d'horreur, 80% du temps, c'est un jumpscare de ce style-là. Et,
ah, mais c'est plus qu'un jumpscare, là, quand même. Il y a de super bonnes idées. Jumpscare. Ah, je sais pas, après moi.
Mais c'est malin, c'est plus malin que la plupart des films du style, tu vois, mais
oui,
ça reste
je pense
la différence, un effet de manche un peu gentil, quoi.
Je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un tutoriel de ce que tu peux faire avec trois bouts de ficelle. Exactement. Quand tu veux faire peur, tu vois, que t'es étudiant, que t'as un portable pour filmer parce que la photographie est dégueulasse, genre le décor est immonde, enfin, il y a vraiment rien. Mais il y a cette bonne idée de quand t'éteins la lumière, ça fait apparaître la silhouette du truc.
Peut-être que le problème que j'ai aussi avec ce truc, c'est que ce film-là est devenu complètement viral. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles ce cinéaste-là est. Et ça a mis des étoiles dans les yeux de tous les aspirants réalisateurs qui font des petits films pour moins que rien, et c'est devenu tellement un modèle absolu du cours d'horreur où ça dure 7 minutes et t'es dans la chambre et à la fin il y a un jumpscare avec la lumière qui s'ouvre. Et vraiment, c'est terrible.
Mais ce qui est bien avec son court-métrage, c'est qu'il dure pas 7 minutes.
Oui,
c'est ça qui est dans la modestie et la simplicité du truc. C'est qu'il sait qu'il a deux décors, qu'il tourne avec sa femme, et qu'il a juste une silhouette et un effet maquillage spectaculaire à la fin. Avec, je trouve, non pas juste le jumpscare, mais le fait que tu puisses la fixer suffisamment avant qu'elle éteigne la lumière pour te dire c'était quoi cette horreur.
Oui.
Et juste un effet sonore, la musique, et t'es vraiment hanté par cette vision-là. Alors que, par exemple, dans aucun Conjuring, j'ai eu ce sentiment
à la
fin.
La preuve que ça fonctionne quand tu vas le voir en salle, justement, ça, il m'est arrivé à de multiples reprises. Parce que vraiment, quand il y a le jumpscare, la salle hurle. Mais franchement, j'ai rarement entendu des aussi grosses réactions à un jumpscare que face à ce court. Parce qu'il est hyper efficace, voilà.
Ouais, je trouve ça ouf. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'aucune des idées les plus efficaces du court-métrage ne seront dans le long-métrage qui, lui, est très raté, malheureusement.
Effectivement, le long-métrage, pour le coup, vraiment édulcoré et j'ai aucun souvenir. À part vite fait la scène où d'ailleurs il y a sa femme dans l'entrepôt. Qui essaye un peu de reproduire ça, mais de manière plus spectaculaire, avec des lampadaires et des lumières en douche et tout, mais c'est beaucoup moins intéressant.
Hyper, oui,
donc malheureusement. Mais toujours est-il que le mec, il est pas manchot, donc il est engagé pour faire Annabelle 2, et que Annabelle 2 est donc un préquel qui explique d'où vient cette Annabelle, puisque le sous-titre de Annabelle 2, c'est Création.
Donc un préquel de préquel.
Oui, bah alors ça c'est le gros problème de saga, hein, c'est que t'as des préquels de spin-off, de dérivés, qui sont des suites avant le film original, donc...
C'est en anglais, c'est creation, mais en français, c'est la création du mal.
Oui, parce que c'est du mal.
Ah, mais j'avais oublié. Oui. C'est encore pire que ce que je pensais.
Créer carrément le mal à l'état pur. Quoi.
J'adore. Vraiment, il faut qu'il y ait le mot mal dans absolument tous les sous-titres, parce que sinon, c'est dommage que la None 2 soit pas la None 2, la malédiction du mal.
Oui, c'est vrai.
Il y a déjà mal dans malédiction, donc ça suffit.
Et pourquoi, toi, je crois que Mathieu, t'es celui qui aime le moins Annabelle 2.
Oui, non, mais pour moi, c'est vraiment l'archétype du film que tu définis comme moins pire que. Oui, certes, il est mieux que les deux autres. Parce que j'avoue qu'il y a de la mise en scène. Surtout au début, il y a ce genre de plan qui part du haut de l'église ou de la maison, je sais plus, qui arrive sur les personnages, qui est intéressant, et qui est déjà beaucoup plus malin que ce que feront les autres par la suite. Il y a des moments où tu sens qu'il essaye de faire des trucs. L'argument du ça se passe dans un nouvel environnement. Ok, mais franchement, c'est très limité. Enfin, je veux dire, ça va, ils partent pas dans la jungle non plus, quoi.
Oui, ça reste une maison.
Ouais, ça reste une maison dans laquelle tu restes 80% du temps, et dehors, c'est un peu désertique, mais bon, je vois pas trop la différence. Finalement, je trouve qu'il y a plus d'originalité dans la maison un peu de banlieue du Cainfield, on va reparler de Conjuring 2, que là, quoi. Après, franchement, ça reste, je trouve, très bas de gamme, voilà. Il y a beaucoup de jumpscares nuls. L'histoire est pas intéressante du tout, ça reste toujours le même problème de la poupée ne fait rien et c'est un démon hyper numérique que t'oublies en 4 secondes. Il y a beaucoup de scènes qui veulent faire penser à d'autres scènes. On en avait parlé à la rédac, mais la scène du puits, tu peux pas ne pas penser à une sorte de Ring en version jumpscare nas, quoi. Mmh. Franchement, oui, certes, c'est moins douloureux à regarder, la photo est un peu plus belle. C'est... Ah là, oui, alors ce que je lui retire pas, c'est que c'est peut-être le plus violent des films de la franchise. Mmh. Y a, quand la gamine se fait éclater par la voiture au début, aujourd'hui, dans les films contemporains, enfin, plus récents, du Conjuringverse, ils oseraient même pas te montrer le choc imminent, quoi, à ce point-là. Et il y a cette scène, l'effet spécial est dégueulasse, mais où il tient le crucifix et tous ses doigts se retournent les uns après les autres, qui est marrante quand même, et un peu méchante, pour le coup. Vraiment.
Oui, oui, oui. Oui, puis alors, c'est vrai que je suis d'accord pour dire que la scène du puits, c'est un peu du gâchis. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un instant aussi, une autre scène qui est réussie, c'est quand la mère, elle pense. Enfin, on a l'impression que le landau va se faire écraser par un camion avec le bébé, et qu'en fait, on revient sur la mère et elle a le bébé dans les bras. Ça, c'était une bonne idée aussi, je trouve. Enfin, bref, peu importe.
Ça aurait été encore mieux si le bébé était dans le landau. Mais...
Oui,
encore une idée sous-exploitée, quoi.
Il y a pas assez d'enfants morts dans ces films.
Bah ouais.
Non, alors je suis d'accord pour dire que la scène du puits, effectivement, c'est un peu du gâchis, mais après, dans le reste, je trouve qu'il y a une telle inventivité. Là aussi, il y a un côté hyper train fantôme qui sera vraiment poussé. Au max dans celui d'après, dans Annabelle 3. Mais là, déjà, il y a cette espèce de schéma que je trouve hyper gros et hyper gros sabot, et en même temps que je trouve aussi très marrant, c'est de, pendant les 20 premières minutes, on te place tous les fusils de Tchekhov, dont toutes les gamines, elles vont visiter la nouvelle maison dans laquelle elles vont vivre, et on voit, alors là, il y a un monte charge, là, il y a tel truc, là, il y a des photos flippantes, là, il y a un puits, machin, et qu'au fur et à mesure, bah, toi, tu sais, en tant que spectateur, qu'on est en train de te dérouler le catalogue des choses qui vont te faire peur plus tard. Et je trouve que ça, tu vois, ça te conditionne dans un esprit de « Oh là là, je vais m'éclater, je vais avoir peur », tu vois, qui est agréable. C'est...
La déception n'en est que plus cuisante.
Ah, je sais pas, je trouve qu'il y a des scènes qui fonctionnent. J'aime bien, alors même si c'est pareil, c'est un peu l'accumulation de beaucoup de choses, mais j'aime bien la thématique de la mère de famille qui sort jamais de sa chambre et qui est planquée avec son masque parce qu'elle a une blessure horrible derrière. Et tu vois, mais la scène de sa mort, que je trouve aussi plus violente que ce qu'on voit dans le reste de la saga, je trouve assez saisissante, où on sait qu'elle est morte accrochée au mur parce que les filles la voient, mais au départ, on a un plan... serré entre guillemets, un plan poitrine à peu près, donc elle a les mains qui sont clouées au mur et donc sa tête qui pend parce qu'elle est morte, et en fait ensuite les filles partent et dans leur dos on change de plan, de valeur de plan, et on a un plan large où on voit qu'en fait il y a tout le bas de son corps qui manque, tu vois, et ça c'est aussi des trucs assez malins, je trouve, qui donnent bah, du fun, on va dire du fun effrayant au final.
Mais d'ailleurs, c'est fun de couper les gens.
L'histoire de la mère qu'on voit pas, ça me fait beaucoup penser, je pense, vraiment une autre influence de Wan qu'on n'a pas cité, mais qui est le trauma des années 70, tu sais, T-R-A-U-M-A, pas trauma,
oui.
Qui, je pense, c'est la même idée. Ils arrivent dans une maison et... alors, je confonds, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison et en fait, on ne sait pas qui c'est, mais il est là et ça fait peur. Voilà.
Oui, ouais.
Moi, ce que j'aime bien dans le 2, effectivement, je suis d'accord avec Judith, pour une fois, c'est cette ambiance qui est posée, le fait de... Alors, je sais qu'on n'exploite pas beaucoup l'extérieur, comme le dit le vilain Mathieu, qui est jamais content, mais quand même, t'as une maison perdue au milieu de la pampa, dehors, c'est vraiment un décor cramé, éclairé, c'est le désert, ils sont isolés, certes, mais surtout, je trouve ça assez amusant que ce soit le clash de la maison qui soit l'obscurité, qui va devenir vraiment la maison du mal, mais que à l'extérieur, ce soit un truc un petit peu... je sais pas, joli quoi, vraiment un bel endroit, tu te dis, je vivrais bien là, alors que dans le premier Annabelle, par exemple, ce qui me fait un peu chier, c'est que les deux décors sont quand même très génériques et pas très intéressants. Leur maison de banlieue, c'est pas très intéressant, c'est pas très excitant, c'est même pas comme Halloween, et leur immeuble, bah, c'est inintéressant aussi.
Bah, c'est pareil, ça reprend vraiment le type d'appart à la Rosemary's Baby, quoi,
ouais,
on le connaît, quoi.
Mais il n'y a pas d'ambiance, alors que dans Annabelle 2, je trouve que l'ambiance est posée, que ce soit avec la grange, avec l'épouvantail, avec le fait qu'il y a un puits, le fait que dans la maison, il y ait ce monte-charge un peu bizarre, je trouve qu'il y a plein de petites choses qui sont là, effectivement, pour un peu te stimuler. Et c'est vrai que plein de choses sont un peu sous-exploitées, mais il y a des séquences que je trouve réussies, notamment celle où la gamine, qui pour le coup est assez violentée, donc celle qui a le problème à la jambe, qui a eu la polio et qui utilise le monte-charge, c'est qu'à un moment, elle a un peu ce truc du cauchemar qui est un peu comme l'ascenseur dans le premier Annabelle où tu appuies sur le bouton et ça te ramène tout le temps au même endroit, la logique de cauchemar. Là, elle se réveille et en fait, le démon commence à essayer de la poursuivre. Elle hurle, elle fait du bruit et en fait, tu vois que tout le monde dort et que personne ne se réveille parce qu'en fait, elle est dans une autre dimension, mais c'est pas explicité comme une autre dimension. C'est juste, elle est dans une boucle infernale. Et quand elle essaie de s'échapper avec le monte charge descend, déjà, elle met du temps à descendre. Après, le truc est rappelé et quand elle finit par se libérer et croire que c'est ok, elle est happée par un truc après un moment de silence au plafond, là je me suis dit putain c'est génial, elle va pas revenir, elle va pas retomber, et en fait elle retombe comme une merde au rez-de-chaussée Et tu dis, mais la violence du truc, ouais, quoi, c'est vraiment, la gamine, elle a été prise et elle a été jetée comme un vieil animal mort, quoi.
C'est vrai que les gosses prennent plus cher dans celui-là que dans tous les autres films de la saga, ce qui est une qualité.
Ouais. Et tu vois, si tu ajoutes à ça la scène de l'épouvantail qui est à l'extérieur de la grange, où quand elle essaye de démarrer en voiture, les gamines, donc c'est la nuit, il y a les phares qui éclairent et puis ils s'éteignent, et à chaque fois, l'épouvantail, il a changé légèrement de position, mais il n'y a que l'une des gamines qui le voit. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est hyper saisissant. Il y a aussi la scène où on découvre qu'Annabelle, elle est dans cette espèce de pièce trop bizarre, tapissée des papiers de la Bible, et la scène où t'as la plus petite gamine qui va se coucher, enfin qui va se planquer dans son lit alors qu'on voit qu'il y a la main du démon parce que c'est un lit superposé, ouais. Voilà, et on se dit qu'il y a le démon qui est couché juste en dessous d'elle. En fait, moi je me rappelle au cinéma, sans avoir trouvé que c'était un excellent film, je me rappelle de cette sensation en fait de peur qui n'arrêtait jamais, parce que pour le coup, bon, moi ça me faisait peur, et c'était peut-être l'effet salle de cinéma, hein, je sais pas.
Non, mais je pense que tu es faible, c'est tout.
Aussi, mais je suis contente d'être faible pour ce genre de choses. Et en fait, j'étais vraiment ressortie avec l'impression qu'en fait, le film ne nous laissait jamais respirer et qu'on avait peur tout le temps et que en fait, c'était épuisant physiquement, quoi. Et ça, encore une fois, on me le donne pas si souvent, quoi. Donc je l'ai trouvé assez fort.
Alors moi, j'ai pas peur du tout dans le film, mais par contre, je trouve que c'est stimulant. Je trouve que le film est bien rythmé et qu'il y a toujours un truc qui t'est donné qui est amusant, même si, encore une fois, il réinvente rien. Par exemple, à un moment, la petite sœur de celle qui a la polio joue avec une sorte de pistolet où tu lances la balle et au bout d'un fil, elle joue face à une porte où il y a l'obscurité, parce que pourquoi ne pas faire ça, évidemment, dans une maison aussi flippante. Et au bout d'un moment, le truc est tiré par quelqu'un extérieur. Après, tu entends des pas courir vers elle. Ça, je trouve que c'est très stimulant pour l'imaginaire. C'est vraiment, je trouve que c'est une sorte de petite angoisse qui est là. Alors après, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle s'endort dans ce lit alors qu'elle sait qu'il y a un démon, que la porte est ouverte, qu'elle s'endort. Elle dit, mais qui s'endort là? Moi, je me jette par la fenêtre plutôt que de dormir dans ce lit superposé. Mais bon, en tout cas, je trouve que le 2 est plus cinématographique dans l'ambiance, dans la merde, les choses sont posées. Il y a plein de moments où il joue. La photo est belle, quoi. Il y a plein de trucs où tu sens que c'est soigné. C'est pas un grand film, il n'y a pas grand chose qui est réinventé, mais tu sens qu'il y a un soin qui est donné. Et je trouve que c'est vraiment au-dessus du premier et du troisième, parce que les autres sont vraiment des gros téléfilms, quoi. C'est un peu bordélique, les autres. Là, je trouve que c'est un peu plus carré. Je pense qu'il avait un découpage, en fait, tout simplement.
Ah, tout simplement. Alors justement, oui, effectivement, moi je trouve qu'il est riche, qu'il est très foutraque, mais qu'il est aussi beaucoup plus riche. Mais alors du coup, parce que là aussi, évidemment, le réalisateur se targue d'avoir eu des inspirations assez prestigieuses. Et donc effectivement, en termes d'inspiration visuelle, il cite notamment La Maison du Diable, donc The Haunting, de Robert Wise, de 1963, et pour l'inspiration musicale, Shining. Alors là, moi j'ai pas spécialement...
Parce que pourquoi pas? Alors la musique, aucun souvenir. Donc, je sais pas où est-ce qu'il
je crois
que
c'est parce qu'à un moment, il y a des violons discordants qui font clic, clic.
Voilà.
C'est hyper original, donc je veux dire que voilà.
Et alors, pas d'histoire selon laquelle le plateau aurait été hanté. En revanche, c'est quand même peut-être un film un peu maudit, parce que Stéphanie Sigman, qui joue le rôle de la sœur Charlotte, là, un peu.
Fantastique personnage, passionnant, très riche.
Voilà, mais écoute, c'était son dernier rôle. Hein. Voilà. Elle a vaguement perduré dans la série SWAT, dans laquelle elle a eu un rôle jusqu'en 2019, et puis ensuite, bye, et au cinéma.
J'ai peur, je crois qu'elle veut dire qu'elle était morte.
Non,
putain, je viens de rigoler, c'est horrible, je suis un monstre. C'était son dernier rôle. Tu ravales ton rire, petit con.
Non, elle a juste plus retourné, quoi.
Ok. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'elle, c'est James Wan qui voulait qu'il y ait un teasing de la nonne, puisqu'à un moment, t'as cette scène hilarante où elle montre une photo de son couvent où elle a été en visite en Roumanie, et elle dit au père de la famille, oh bah regardez, ça c'est sœur Marinette, sœur Antoinette et tout. Et tu sais, il bouge la photo comme un truc de jeu où tu sais, en bougeant, t'as un effet 3D, et là t'as Valak qui apparaît dans un coin et il dit, c'est qui elle? Et elle répond, oh, je la connaissais pas, elle. C'est hilarant, tellement c'est ridicule. Et ça, c'est James Wan qui voulait que ce soit dans le film. Preuve qu'à l'époque, James Wan était quand même assez omniscient, omniprésent pour piloter la saga et faire en sorte qu'il y ait des petits clins d'œil pour que l'univers soit lié. Donc clairement, c'est pas Sandberg ou les scénaristes, c'est James Wan qui pilotait ça en arrière-plan, tel le démon qui bouge sa main dans le cou de la poupée Annabelle.
Et alors, au moment où le film... Alors là aussi, il y a eu une compétition de court-métrage pour favoriser la promotion du film.
Ouais, sauf que là, c'était pas entre cinéastes établis, mais auprès de... du grand public, quoi.
Okay.
Voilà, il y a eu 5 gagnants que j'ai vus.
C'est bien.
Disons que... la plupart sont... À part un qui est immonde. La plupart sont bien foutus. Techniquement, tu sens que c'est des mecs qui ont l'habitude de faire des cours qui s'y sont mis, même si ça reste pour la plupart des projets amateurs. Après, c'est de la compilation de jumpscare. Il y en a un que j'ai mieux aimé que les autres. Parce que tout simplement, c'est une sorte de dessin animé de une minute en mode conte de The Crooked Man, justement.
Ah.
Voilà. Il reprend un peu le design et ça ressemble une sorte de pré-générique d'un film, tu sais. Okay. Mais bon, vu que ça dure une minute et qu'il y a un côté un peu conte, je trouve ça plutôt amusant. Et sinon, bah, c'est toujours la même idée. C'est, y en a une, c'est The Nurse. Et bah, c'est toujours la même chose que La Dame Blanche, La Nonne, ce que tu veux, sauf que bah, elle ressemble à une... Bon, un côté un peu... Le design a un côté un peu zombie. Parfois, t'as une bonne idée mise en scène, comme là dans la The Nurse, le personnage principal en fait a un bandeau sur les yeux parce qu'elle clairement elle a dû se faire opérer des yeux, un truc comme ça. Elle se balade dans la. Ça dure 2 minutes à chaque fois, donc ça va vite. Elle se balade dans l'hôpital. Bon, t'as les apparitions et tout. Et le twist, c'est quelqu'un lui retire son bandeau qui a l'air d'être une nurse gentille et en fait ça l'est pas. L'intérêt étant qu'en fait, quand elle retire son bandeau, tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a plusieurs couches. De bandeau. Mmh. Du coup, à chaque fois qu'elle fait un tour, tu dis « Ah, c'est la bonne !»« Ah, c'est la bonne !» Parce que tu sais bien qu'il va y avoir un jumpscare. Mmh. Donc, c'est un peu malin, mais franchement, c'est à l'image des films, c'est-à-dire que c'est très calibré. Et de temps en temps, t'as une bonne idée.
Une sorte d'effeuillage version voilà. Zombie, quoi. Ah, et non. Ah, 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 bientôt.
Après, bon, en soi, c'est une bonne idée qu'ils aient proposé ce concours. C'est des films qui ont de la visibilité. Je sais pas si ça a propulsé les gens qui les ont fait.
Ça me fait penser au concours qu'ils ont fait pour l'anniversaire d'Alien il y a quelques années. Et quelle grosse...
C'était très lisse.
Ah bah, film pas bien. J'allais, je veux pas le dire méchamment, mais c'était pas bien.
Il y en avait un, je me rappelle, qui était à peu près sympathique.
Ah ouais, j'ai souvenir d'une telle lequel. Déception, quoi, avec un univers aussi riche.
Mais en parlant d'Alien, justement, la sortie d'Annabelle 2 au cinéma a été repoussée de 3 mois pour éviter la compétition avec Alien Covenant, pardon.
Et bah, une belle année pour le cinéma horrifique et de genre, hein, dis donc.
Ça, mais non ironiquement.
Voilà. Mais c'est dit, en termes de casting, c'est pareil. Hein, Anthony LaPaglia et Miranda Otto qui font les deux darons, là. C'est pareil, c'est des bons acteurs. Enfin, bref.
Et je trouve que les gamines sont vraiment super bien aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ouais, c'est pas trop mal joué.
Regarde le cynique. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. bon, on passe à la plus grosse dope de la trilogie.
Attends, j'ai pas dit si le film avait marché.
Oh, ben on se demande. Ouais.
Parce que justement, puisqu'il y a un troisième, effectivement, dans 26 pays, le film réalise quand même le meilleur démarrage pour un film de la franchise, tout compris. Et donc, pour un budget de 15 millions, il ramasse 306,5 millions. Donc, effectivement, magnifique score.
Incroyable. Voilà.
Moi, quand même, le truc qui m'hallucine avec cette saga, c'est quand même, on se dit, on a un bestiaire, on pourrait créer tout n'importe quoi dans l'univers Conjuring, qu'est-ce qu'on fait ? Une poupée, quoi. Genre, on n'a pas déjà vu 1000 films avec ça.
Oui, mais
dans
on
la
adore.
Quatrième dimension, dans Chucky, c'est genre la poupée qui est possédée
Chucky,
et tout, mais c'est
pas.
Tellement basique, quoi. Mais...
Après, ouais. C'est cohérent, étant donné que beaucoup de gens ont attribué l'affaire originale de la poupée Annabelle par les Warren. La mythologie qui s'est créée autour de ça ont attribué à ce moment-là, on parlait beaucoup de l'idée de poupée possédée, parce qu'il y avait eu un épisode de la quatrième dimension quelques années plus tôt avec la poupée, dans la saison 5, là, la poupée, la poupée qui a tué quelqu'un, là. Et je crois qu'il y avait une autre affaire aussi. Enfin bref, le côté... La poupée du mal était un peu dans l'air du temps et forcément ils ont sauté sur l'occasion pour faire
tristesse.
Enfin, leur pub. Du coup, finalement, que le film soit nul, dans la lignée de ce truc-là n'est pas.
Si des gens comme Judith sont satisfaits, que peut-on y faire? Donc, Annabelle 3, là, franchement, c'est une grosse frustration parce que l'idée est pour le coup vraiment cool. C'est qu'on revient, alors pour le coup, c'est une vraie suite, on n'est pas dans le préquel, on est à la suite du premier Annabelle. Ils ramènent cette poupée dans leur boutique des enfers, chez eux, dans leur sous-sol fermé à clé, sauf qu'évidemment, les gens peuvent y rentrer parce que sinon, c'est pas drôle. Et tu peux exploiter cet endroit en se disant qu'en gros, quelqu'un pour communiquer avec quelqu'un de sa famille qui est mort ouvre l'espèce de vitrine dans laquelle est Annabelle. Et Annabelle libérée va non pas attaquer les gens, mais libérer et activer d'autres trucs qui ont été touchés aussi par la gamine. Donc ça devient un peu la fête foraine, le train fantôme, mais vraiment, c'est exactement, pour le coup, c'est ça, la maison du mal, comme ça, qui s'appelle celui-là.
Oui, alors en anglais, c'est Annabelle Comes Home, mais effectivement, en français, c'est la maison du mal.
Oui, bien sûr.
Donc, en théorie, c'est vachement cool, parce que tu as Annabelle et le démon caché derrière elle, mais tu as aussi tout le mythe de Charon, donc la barque qui mène vers l'enfer avec les gens qui, dans une fois morts, on leur met des pièces sur les yeux pour pas qu'ils se réveillent, pour pas qu'ils reviennent. Donc, il y a un truc un peu de visuel qui est assez cool, avec des gens qui ont des pièces sur les yeux. Tu as une mariée, parce que pourquoi ne pas ressortir un vieux truc pourri du cinéma d'horreur avec une femme en robe de mariée, parce que c'est flippant. T'as une sorte de gros loup, le Black Chuck, je connais pas ce truc de mythologie, je crois que c'est britannique, et une sorte de gros loup, gros chien.
Ah oui, c'est ce truc-là, oui, le chien noir que tu vois avant de mourir, ouais, d'accord. Ouais.
Loup-garou, milliard de merde là-dehors.
Oui, voilà. Non, mais c'est une vraie légende avant Harry Potter quand même, c'était une légende déjà existante.
Ah putain, j'avais pas compris cette référence. T'as un jeu de société aussi, alors je ne le connais pas, je sais pas si c'est un truc connu aux États-Unis, c'est très peu exploité dans le film, donc c'est pas grave. Tu vois le samouraï qui à un moment est dans un couloir et qui est censé faire peur parce que t'as des voix qui susurrent dans l'ombre. Donc voilà, t'as quand même un peu un bestiaire et des trucs qui te donnent l'impression qu'en fait elles vont être séparées et qu'il va se passer plein de trucs.
C'est dingue parce que comment tu le décris, ça donne trop envie. Moi, je veux voir ce film en fait.
Mais bah, on l'attend toujours ce film, mais parce c'est vraiment... que c'est pas du tout ce qui se passe dans Annabelle 3. Hein.
Bah, c'est-à-dire qu'il s'engouffre vraiment dans tout ce qu'on a envie de voir depuis le début, depuis le premier Conjuring, où on nous dit que les Warren, ils ont un sous-sol dans lequel il y a tous les objets maudits de la Terre. Évidemment qu'on a juste envie de s'y enfermer, enfin pas pour de vrai, mais pendant une heure et demie et de voir ce qui se passe. Quoi. Ouais. Effectivement, le film joue complètement là-dessus, et moi je suis moins sévère que vous, mais...
Ah, parce que... En le revoyant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est nul et mal rythmé pour le coup. Alors déjà, tu observes la tendance de la saga Conjuring à glisser vers le teen movie, parce que là, les trois personnages principaux sont trois gamines, dont deux qui sont ados. Donc tu sens quand même le recalibrage pour ne plus avoir d'adultes, parce que vraiment, les parents se disent, oh, on va laisser notre gamine avec des gamines pour faire la baby-sitter dans une maison qui est juste l'antichambre de l'enfer. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et je trouve qu'en plus, tu as deux aveux d'échec. Le premier, c'est que tu fais une sorte de Avengers Civil War, enfin Captain America Civil War, en te disant qu'il y a les Warren dans un film Annabelle qui sont là au début pour encadrer, avec quand même une longue introduction où ils sont là devant un cimetière et tout. Donc tu dis, bon, les gens viennent pour les Warren, on les remet, et après ils partent. Et en plus, bah, l'aveu d'échec, c'est que t'as un film qui s'appelle Annabelle, où finalement Annabelle, c'est juste quelqu'un qui tire un peu les ficelles, mais t'as surtout d'autres démons. Donc,
ça a toujours été le cas, et c'est le problème.
Ouais, mais là, c'est
spin-off.
Encore pire, quoi.
Ouais, mais là, enfin, finalement, ils ne font que l'assumer. Parce que dans les deux premiers, pour moi, c'est le pire. Dans le premier, c'est ça qui m'a fait le plus halluciner. Annabelle est un prétexte pour te balancer une énième entité hyper générique, parce que bon, à la limite. Si Annabelle était un intermédiaire, parce qu'il le rappelle dans le 2, il le rappelle dans Annabelle 2 aussi, on a compris. Si Annabelle est vraiment un intermédiaire, bon bah faisons un intermédiaire pour un truc un peu plus fun que le quelconque diable avec ses cornes debout.
Alors, justement, en parlant de ça, c'est que moi j'ai pas de problème avec le côté entité démoniaque un peu abstraite dans l'ombre, la peau noire. Pour le coup, ça peut me faire un peu flipper de voir juste une main, des yeux. Je trouve que ça marche bien. Moi, je suis assez client de ça. Dans le premier Annabelle, dans le deuxième, je trouve que ça marche bien. Enfin, relativement bien. Mais dans le troisième, il le montre plus et effectivement, tu vois des cornes. Et là, je trouve qu'il passe le cap de on te définit encore plus la menace. Donc, déjà que tu sais que c'est un démon générique, genre le démon avec un grand D. Dans le troisième, il apparaît un peu plus dans la lumière. On te montre qu'il a des cornes. Et là, je me dis, mais en fait, on dirait un épisode de Buffy, j'aime Buffy, mais arrêtez. Pourquoi mettre encore plus en lumière un truc que tu sais ne pas être un grand argument de peur, quoi, cachez-le. Et là, il ne cache plus du tout les trucs dans Annabelle 3. Alors pourquoi tu peux défendre ce film?
Mais ce qui finalement était un peu excité à la base, le fait qu'il ne cache plus les trucs, qu'il y aille à fond, quoi.
Oui, quand je dis ne pas cacher, c'est savoir en jouer, quoi, tu vois, parce que de montrer vraiment les cornes un peu dans l'ombre au-dessus du lit avec une gamine qui hurle et la porte qui se ferme, bah non, je m'en fous, quoi. Comment tu veux que j'ai peur de ça?
Oui, mais alors effectivement, je suis d'accord pour dire que le film, comment dire, en tant qu'objet qui se rythme bien, qui se conclut bien, et qui avec des fils conducteurs qui sont bien tenus de bout en bout avec un scénario solide, on est d'accord que c'est pas ça. Mais on va dire que c'est comme accumulation de petites séquences que je trouve soit marrantes, soit touchantes, soit effrayantes, bah j'aime bien en fait, tu vois, vraiment par petites friandises, parce qu'il y a plein de petites idées que je trouve bien. L'idée justement, on en parlait du samouraï, et quand on passe à côté on entend les voix qui hurlent des champs de bataille auxquels il a assisté, ce genre de choses, je trouve que c'est une super bonne idée, tout ce que ça suggère, tu vois. On nous en montre pas plus, mais on a l'impression qu'on peut, ouais, encore une fois, on peut ouvrir la boîte de Pandore et qu'il y aurait des choses absolument horribles derrière. Le visuel des gens avec les pièces sur les yeux, je trouve que leur apparition elle est vachement bien faite. Je trouve que la scène où la meuf qui est chiante, la Daniela qui veut braver tous les interdits, non mais c'est vrai qu'elle est d'un sans gêne, genre n'invite jamais cette fichée, vous savez. Mais quand du coup elle a l'impression de jouer du piano avec le fantôme de son père, et en fait c'est un démon, c'est mi-touchant, mi-effrayant. Du coup il y a la scène de la télé aussi, la télé qui te montre quelques secondes en avance ce qui va se passer, et à un moment donné, juste avant qu'elle soit secourue, on a l'impression qu'elle va se retrouver devant la télé en étant complètement fracassée, pleine de sang. Je sais pas, je trouve que c'est, tu vois, c'est des petits trucs malins aussi qui viennent te donner ce pourquoi t'es venu, tu vois, vraiment qui s'approche de l'idée de qu'est-ce qui se passe si j'ouvre la porte de cette pièce maudite. Voilà, je trouve ça sympa. Et même le côté, tu vois, plus teenage, oui, c'est plus simple, c'est plus léger, ça se prend moins au sérieux, mais est-ce que c'est pas un peu ce dont t'as envie pour une soirée d'Halloween entre potes, tu vois?
Tout excusé, en fait, c'est pas possible.
En fait, moi, je me prends vraiment à rêver de ce que James Wan aurait fait en tant que réalisateur d'un tel concept, d'autant que lui-même est allé plus tard dans le côté un peu léger pop avec son meilleur film, Malignante.
Pas du tout.
Et
on ne comprend pas ce sujet.
Et en plus, tu vois, il y a un côté un peu William Castle dans l'idée, voilà, ça fait très La Nuit de tous les mystères, ou je sais pas, Transfantôme.
On dirait Transfantôme, mais la version des années 2000, moi, je trouve. Hein.
qui était déjà...
En moins drôle,
parce que la version de 2000, elle est douloureuse pour ta rétine, niveau visuellement, mais au moins dans le design, c'était un peu plus rigolo, quoi.
Et puis il y a des mises à mort un peu drôles.
Oui, c'est un peu gore et tout, les mecs qui se coupent en deux par la vitre.
Ouais, c'est trop drôle.
Mais ouais, du coup, je serais curieux de voir ce que James Wan en aurait fait, autant dans le côté sérieux que dans le côté franche rigolade. Et là, le problème, c'est que notre cher monsieur Doberman, si je dis pas de bêtises, c'est ça,
Gary Doberman,
voilà, non, en fait, il n'arrive pas à choisir son camp. Il choisit pas son camp. Voilà.
Entre, oui, non, mais c'est clair. Mais moi, je trouve que, pour le coup, je trouve qu'on arrive vraiment au bout de comment ne pas exploiter une idée. Parce que, par exemple, celle de la boîte à jeux. À la fin, dans le climax, quand tout le monde commence à se bagarrer là, dans le bureau, ça aussi, scène de merde, t'as des mains qui sortent de la boîte, par tous les trous de la boîte, qui essayent d'attraper les pieds de la gamine qui passe à côté. Je trouve ça drôle, mais c'est dans le climax, c'est à aucun autre moment utilisé. Ouais. Le fait que dehors, t'es un espèce de chien, loup-garou, black
ça,
machin,
c'est très bizarre. Oui,
dans
c'est...
le CGI, ouais. qui est censé quoi, les enfermer, les empêcher de sortir. Pourquoi ne pas avoir utilisé, je sais pas, quand elles sortent dehors, elles sont au milieu de la brume totale et du coup, il n'y a pas d'issue. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses pas exploitées. Le fait les hommes pièces là, je trouve que la meilleure idée du film c'est ce truc de elle voit des pièces qui reflètent un peu la lumière dans l'obscurité avec sa lampe torche, elle monte doucement vers les yeux et en fait quand elle arrive sur les yeux, les pièces tombent parce qu'en fait ces êtres là ne sont que dans l'ombre, mais c'est pas exploité. Je trouve que vraiment pour le coup c'est une compilation mais dans le pire des sens, c'est à dire que t'as des toutes petites miettes et t'as absolument rien qu'à exploiter, et je trouve qu'il n'y a aucune scène qui se tient, qui est tirée sur plus de 10 ou 15 secondes, ou alors c'est elle qui avance avec sa lampe torche en tremblant pendant genre 40 secondes, tu te dis mais meuf casse-toi de cet endroit déjà quoi.
Bah, je pense qu'après le réalisateur Dobermann il a un peu conscience de la limite de ces images là, et je pense qu'il sait qu'il peut pas en faire quelque chose de tellement plus long pour que ça fonctionne sur la durée, tu vois, je pense que ça peut pas tellement fonctionner ça sur une image de quelques secondes, donc bon c'est un peu assumé comme ça. Après je suis d'accord pour dire que le truc du loup-garou c'est vraiment trop, ces scènes là vraiment sont vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais d'ailleurs le personnage du mec aussi là, de
quoi.
Bob qui est d'ailleurs joué par un acteur qui s'appelle Michael Cimino, enfin bon bref mais...
fantastique
quand t'as vu la fiche MDB t'as fait what.
Oui c'est ça. Mais ça c'est vraiment en trop, surtout qu'en plus c'est là que les CGI sont les plus laids,
mais oui,
c'est, bon.
Tu sens pas la menace puisque même lui se fait pas tuer quoi, donc ça n'a aucun sens.
Mais disons que c'est vraiment la comment dire, la forme popcorn tu vois, est plus fun et plus pop que les autres, et je me dis bon pourquoi pas, j'aime bien cette variante aussi quoi.
La fin je la trouve aussi absolument désastreuse parce que l'enjeu c'est de refoutre Annabelle dans cette cloche en verre, et donc t'as un moment absolument hilarant où elle la refoute dedans et donc tu dis ah c'est presque gagné, elle ferme la porte et en fait une force invisible les empêche de fermer la porte, mais tu te dis en fait le problème de cette saga c'est globalement quelle est la force exacte des démons, pourquoi ils courent après les gens, pourquoi ils enfoncent pas les portes, pourquoi parfois ils griffent, pourquoi ils ne touchent pas, pourquoi ils éventrent pas les enfants. Ce serait beaucoup plus drôle, beaucoup plus efficace.
Morale, un minimum
voilà.
de morale.
Au moins, voilà, Daniela, elle a touché, il fallait pas éventrer. Voilà,
ouais.
Leçon. Et là, en fait, elle se retrouve, elle, une gamine, à pousser sur la porte en verre avec le démon qui te dit, mais déjà, éclate la vitre, comme ça, c'est réglé. Et après, elle arrive avec une deuxième copine et elle ferme la porte. Et là, il y a encore des voix qui susurrent. Elle fait un tour de clé. Oh, c'est fini.
Mais c'est parce qu'elles ont été ensemble, tu vois.
Oh,
c'est la force de l'union.
C'est nul. Et déjà, dans le côté catoporn, à la fin, t'as la gamine des Warren qui commence à réciter la Bible en disant quasiment, le pouvoir des trois nous libérera, quoi. Et hurle ça dans cette espèce de remise de merde là, et c'est ça qui les libère. Non mais là je pense qu'on passe un seuil, moi je peux plus
ouais.
Je suis obligé de rigoler du film, tu vois.
Mais ça c'est le passage obligatoire, c'est pareil, moi ça quand ça commence à l'écran c'est comme si mon cerveau se mettait en veille et je zappe ce moment là tu vois, genre vraiment je le retiens même pas parce que je sais que c'est le passage obligatoire, ils savent pas faire sans. Mais effectivement malgré tout c'est vrai que ça existe et que c'est dommage. Mais d'ailleurs pour parler de la fille des Warren, c'est quand même un peu bizarre parce que donc dans ce film là donc Judy elle est jouée par McKenna Grace qui est une actrice que j'aime bien d'ailleurs, qu'on a vu dans Handmaid's Tale et plein d'autres choses, alors que dans les Conjuring, ce même rôle est joué par une actrice qui s'appelle Sterling Gerrins, aussi bien dans les films avant que après Annabelle 3.
Ah ouais.
Ouais. Et du coup là, je sais pas, j'ai pas trouvé. Est-ce que c'est conflit d'emploi du temps? Est-ce que quoi? Trop bizarre.
Trop bien.
Je pense que c'est le fait que tout le monde s'en fout. Parce que... avant que tu le dises, il y a littéralement personne sur Terre qui a soulevé la question, je crois.
Mais si, mais justement, parce que tu vois, moi, ça me l'a fait en revoyant de trois là, parce que McKenna Grace, donc elle commence à être un peu connue. Enfin, on la voit dans d'autres trucs, contrairement à l'autre actrice du coup qui joue ce rôle-là. Et du coup, c'est vrai qu'en le voyant, je me suis dit, mais attends, je l'ai pas vu dans les autres films. Et du coup, bon, ça m'a fait un peu bizarre. C'est vraiment un détail, mais c'est encore un petit peu un symptôme de cette espèce de n'importe quoi et du je m'en foutisme.
Tu sens le son apporté à la solidité de cet édifice Conjuring, quoi.
Voilà.
Là, on parlait de ce côté catoporn dans le troisième qui pour moi explose et qui est assez présent dans les autres. Donc moi, c'est globalement là, en parlant de trois Annabelle et de un Conjuring, c'est quoi les trucs qui moi perso m'énervent? C'est notamment le côté catoporn et nié de un moment. Il faut que la résolution passe soit par les photos de vacances et de oh j'étais à la plage, oh ben ça va, le démon va être repoussé, soit le fait que bah je sais pas, tu récites la Bible inversée, en fait ça va être ça l'arme ultime. C'est compliqué cinématographiquement de rendre ça un petit peu cool, un petit peu autre chose que kitsch, quoi. Et la saga, je trouve qu'elle a beaucoup de mal à s'en sortir et que c'est limite pire film après film.
Mais ça, je sais pas pourquoi il s'accroche ce boulet absolument à la cheville. Je sais pas, tu vois, est-ce que c'est pour des... On se posait la question avec Mathieu l'autre jour, est-ce que c'est pour des questions de conviction, vraiment, carrément, éventuellement de prosélytisme, ou est-ce que c'est juste parce que il y a ce côté un peu absolu et définitif de, du, tu vois, dans l'imaginaire collectif et surtout très américain, de la Bible et du pouvoir de Dieu et de gna et que c'est des valeurs absolues, on va dire, pas universelles, heureusement, mais voilà. Et du coup, est-ce que c'est une sorte de facilité de toujours retomber là-dessus, comme une sorte de Deus ex machina, de à partir du moment où on sort la foi et l'amour, machin, on sait qu'on va vaincre de tout, ou est-ce qu'il y a une...
Pour moi, c'est le fondement même de leur mythologie, en fait. Finalement, tu vois, prenons l'univers Marvel, parce qu'ils s'inspirent de ça, de toute
c'est
évidence.
C'est une religion à part entière, donc tu peux...
Voilà. ce qui rend cet univers cohérent, qui relie les trucs entre eux, c'est le Shield, ces trucs-là, etc. Là, qu'est-ce qui relie les trucs entre
Jésus.
Eux C'est les grenouilles de bénitier, quoi. Ouais. Enfin, c'est quoi ça? Ce qu'ils en font, c'est une autre question, tu vois. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils s'y attachent à ce point, c'est qu'ils sont bien au courant que finalement, ce qu'ils font, c'est un truc hyper américain, à savoir un savant mélange de spectacle et de religion, et que ça ne tient qu'à ça, et... On en parlera, mais le film avec le plus de succès, c'est La Nonne. Hein. C'est littéralement une histoire de bonne sœur, quand même.
Ou en plus, pour le coup, le Deus Ex Machina, dans le premier et dans le deuxième, c'est le ridicule du ridicule, parce que c'est à chaque fois une espèce de relique avec le sang du Christ, l'orteil du Christ. Enfin, t'as toujours un truc à la con qui est censé être surpuissant, quoi. Et c'est vraiment le néant scénaristique, quoi. C'est vraiment, il y a un objet à aller trouver. Une fois que t'as l'objet, tu le brandis. Si t'es suffisamment fort et pur, tu peux le tuer à les fins.
C'est une formule de super-héros appliquée, sauf que leur pouvoir, c'est la foi. Mmh. C'est ça. Ed et Lorraine, là, c'est des super-héros dont le pouvoir, c'est la foi. Avec leur chapelet, c'est leur canon de Iron Man et c'est tout, quoi.
Mais c'est ouf que ça marche toujours autant auprès du public, quoi. Ça, je me l'explique mal. Cela dit, pour Annabelle 3, quand même, malgré tout, et je sais pas du coup s'il y aura un Annabelle 4, et je pense que maintenant, ils vont complètement avoir dérivé sur La Nonne, en fait, parce que le film, donc, avait quand même un budget de 30 millions qui était le double du Annabelle 2. Même si ça ne se voit pas à l'écran, on est d'accord.
Où est-ce que c'est passé, putain ?
Il fait des recettes de 231 millions, donc c'est bien, mais c'est quand même nettement moins bien en termes de ratio, et c'est quand même le pire démarrage de toute la franchise. Donc du coup, je pense qu'ils ont senti que le Annabelleverse, c'est tout...
S'écrouler.
Enfin, en tout cas, s'essouffler, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et du coup, ouais, c'est pour ça que... Mais alors du coup, est-ce que ça fait partie des choses qui les ont fait capituler sur un truc encore plus... Pas capituler, j'arrive plus à parler.
Capitaliser
sur un truc encore plus religieux ou pas.
Je pense qu'elle est possédée.
Oui, c'est
ton chapelet, Mathieu.
Voilà.
Je pensais pas qu'on allait parler aussi longtemps de cet univers à la con, sachant que le pire, c'est que le pire est encore à venir, parce qu'il reste encore la nonne 1, la nonne 2, cette foutue nonne blanche. Putain, fait spin-off, la nonne blanche. Ouais, la maison de la nonne blanche.
Du mal.
parce que donc on n'a pas encore parlé de Conjuring 2 qui ouvre toute la partie sur la nonne, la malédiction de la nonne blanche, Conjuring 3, la nonne 2, donc il y a encore beaucoup de choses. Moi je pense qu'il faudrait que je les revoie parce que malheureusement je suis pas trop capable de me souvenir de ce qui se passe dans la nonne 1 notamment, alors que je pense que pour en parler un petit peu décemment.
Pas grand chose.
Si, Judith elle a dit qu'il y avait un cimetière et des gens immobiles. Oui. Et des clochettes.
Moi il y a une clochette.
comme la réussite s'éternise, je propose qu'on continue ça la semaine prochaine. On refera une réunion spéciale sur Conjuring pour parler du non-verse, donc, puisque visiblement on a besoin d'exorciser cette saga. Ce qui me fait dire que si jamais un jour on lance enfin le podcast d'écran large, faudra peut-être faire un épisode sur Conjuring, et faudra espérer que les gens sont intéressés par ça, qu'ils aient envie de l'écouter, de le partager, de lui mettre une bonne note, bref, de nous soutenir. En attendant qu'on fasse ça, c'est la fin de la réu et que Dieu nous vienne en aide pour revoir la nonne et la dame blanche.
Amen.